commentaires. C'est la libre antenne BTLV.
Observation, d'OVNI à Chambéry, rêve prémonitoire, possession et soucoupe volante du 5 novembre 1990. Ce sont ici quelques-uns des témoignages que nous allons découvrir ce soir dans cette nouvelle libre antenne 90 minutes aux frontières de vos expériences paranormales. Comme tous les lundis, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bellanca.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Sans jugement, sans censure, mais avec bienveillance, je suis ici pour vous écouter et pour certains d'entre vous, vous libérer d'un poids que vous avez toujours eu sur l'estomac depuis le jour où vous avez rencontré le mystère et l'inexpliqué. Rester sans réponse face à un phénomène étrange, vous n'avez jamais osé en parler, de peur d'être moqué, voilà pourquoi cette libre antenne devrait être remboursée par la Sécurité sociale. Sur BTLV, vous pouvez parler sans crainte, puisque vous êtes en tout anonymat, au 01 86 22 21 20, on change votre nom, vous ne passez pas à l'antenne, en tout cas physiquement. Et vous pouvez également nous contacter à redaction@btlv.fr. Avec moi, comme tous les lundis, à chaque libre antenne depuis quelques semaines maintenant, c'est Tom. Salut Tom.
Et bonjour Bob.
Ravi de t'accueillir. Tu es là pour relater ce qui se passe sur le chat. Et il va y avoir déjà, encore une fois, beaucoup de témoignages. En tout cas, beaucoup de... D'ailleurs, vous êtes nombreux à témoigner sur le chat, mais n'hésitez pas à nous en faire part à l'antenne. On a besoin de vous pour réaliser cette émission. Hein. Donc, tu nous relateras, bien sûr, tout ce qui sera dit ce soir. Et tu seras commenté, bien sûr, sur les chats de Facebook, de YouTube ou de Twitch ou encore de Dailymotion. Il est l'homme qui vous emmène dans des zones paranormales et depuis le printemps dernier, c'est Jocelyn Efkeller. Salut Jocelyn.
Salut Bob.
Ravi de t'accueillir sur BTLV. On va enregistrer la semaine prochaine un dossier inexpliqué, oui. Un nouveau, et on sera ravi bien sûr de vous le présenter sur BTLV. Vous arrivez peut-être bienvenue, sachez que les lundis, mercredis et vendredis, on est en clair sur les réseaux sociaux. L'occasion peut-être vous est donnée de découvrir cette chaîne qui en 9 ans maintenant est devenue le média numéro 1 sur le mystère inexpliqué. La preuve en est, regardez le programme de cette semaine, il est absolument fantastique. Vous ne serez pas déçus d'apprendre qu'après moi et après nous, ce soir, vous allez pouvoir en avoir encore avec OVNI International MUFON Symposium. C'est Bernard Toinel, notre correspondant à Los Angeles, qui a assisté à ce symposium. Eh bien, ce sera l'occasion pour lui de relater ce qui s'est passé. Et on aura deux interviews, celle de James Goodall, qui est un pilote, et puis celle de monsieur du nouveau patron du MUFON, voilà, qu'on a eu en exclu sur BTLV. Demain,
McDonald's.
Voilà, exactement. Merci Tom. Demain, les rêves sont-ils les messagers de notre âme? C'est bien sûr Sandrine Chopin qui dans En aparté reçoit Tristan Moir. Ce sera une jolie émission au cœur, bien sûr, de la spiritualité. Quant à mercredi, on va vous emmener dans les étoiles avec Abduction. Sommes-nous les cobayes des extraterrestres dans Les Affranchis de l'Info? Ce sera avec Isabelle de Cochecot qui est psychologue et qui travaille pour le Cerro France. On verra, puisqu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Rencontre avec les extraterrestres ». Vous verrez que selon tous les psys, en tout cas certains qui se sont collés au dossier des abductions, eh bien, il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans la tête de ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé? On en saura un peu plus mercredi. Et puis, c'est pas fini. Hein. La soirée, la semaine ne fera que commencer, puisque le jeudi, regardez, vous allez pouvoir partir à la découverte des plus grands géoglyphes du monde. C'est les géoglyphes du Thar, dans le désert indien. Vous allez pouvoir découvrir cela avec Carlo et Johan Eutheimer. Ce sont des chercheurs qui ont trouvé des choses absolument incroyables dans le désert du Thar. C'est un désert rocailleux, c'est en Inde. Et c'est la première fois que ces géoglyphes ont été mis à jour. Les Américains en parlent, les Anglais en parlent, les Français en ont parlé un petit peu. Mais encore une fois, on est les premiers à vous faire découvrir ces géoglyphes. Vendredi, ce sera l'occasion pour vous, en tout cas non, jeudi, pardon, j'ai pas fini. Masterclass avec Gaël Huchet. Apprenez à développer votre médiumnité pour mieux la canaliser, en tout cas canaliser les messages des guides avec donc Sandrine Chopin qui se recommande et Gaël Huchet, thérapeute et canal spirituel. Ce sera encore une fois sur inscription, donc inscrivez-vous. Tom, bien sûr, va mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire à cette masterclass. C'est totalement gratuit. C'est pas sur btlv.fr, hein, c'est sur un lien qu'on va vous envoyer. Et puis, vous assisterez à cette masterclass. Et puis, vendredi, donc la revue de presse du mystère à 15h avec François Lémy et Tom Annan. Et puis, éveil de la conscience au-delà de nos espérances. C'est Café Conscience présenté par Françoise Nallet. Voilà le programme de la semaine. J'espère que vous êtes nombreux. Avant d'ouvrir les témoignages et d'accueillir Nicolas pour une observation d'OVNI à Chambéry, on va déjà peut-être saluer les réseaux sociaux, mon Tom.
Eh bien oui, on dit bonjour à tous ceux qui sont sur Twitch, YouTube, Facebook, Dailymotion. Il y a nos plus fidèles, il y a Stéphane Boulené-Masca qui était le premier sur le live là, ce soir. Hein. Coucou les loulous, eh bien Bonjour Stéphane, suivi de Véronique Latreille. Bonjour sur YouTube également. Il y a Ricky Palmer, il y a sur Twitch Palomino FLC qui carrément est en train de préparer son repas. Elle a décidé de tout lâcher pour nous écouter.
Ah bah tant mieux. Bah écoutez, en tout cas, bon appétit si vous êtes en train de dîner. Parce qu'on est aux quatre coins du monde. Il y en a qui prennent leur petit déjeuner. Il y en a qui prennent leur déjeuner. Il y en a qui commencent à se préparer avec un petit verre à l'apéro. Et puis après, ce qui mijote dans la casserole ou la marmite. Alors, au 01 86 22 21 20, on accueille Nicolas qui est avec nous. Bonsoir Nicolas. Nicolas, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous êtes là Nicolas? Nicolas, j'ai pas Nicolas. Ou Nicolas, bonsoir. Bonsoir, j'ai pas Nicolas. Ben, ça sert à rien de me montrer le standard. Tu raccroches et puis tu rappelles. Donc voilà, parce que moi, je peux rien faire. Hein. Donc voilà. Donc Nicolas, on va l'avoir dans un instant. On vous parlera ce soir de plein de choses, hein, bien évidemment. On va parler des rencontres du mystère et de l'inexpliqué qui vont avoir lieu le 20 novembre. D'ailleurs, tu y participes, hein, avec les disparus de Boscodon. C'est une histoire inédite que vous allez pouvoir découvrir. On parlera de dans cette journée des rencontres du mystère et inexpliqué des sujets. On va avoir Joseph Davidovich qui va nous parler des mystères des origines, de l'origine de l'île de Pâques. On va avoir Patrice Marty, les momies de l'étrange, et puis d'autres spécialistes. Je me tourne vers le standard pour savoir ce qui se passe. Si on n'a pas Nicolas, on peut peut-être passer à la suite, parce que je ne vais pas pouvoir jongler et meubler comme ça pendant des minutes et des minutes et des minutes. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, on va retourner un peu sur les réseaux sociaux, parce que j'imagine que déjà, il y a déjà du monde.
Oh ben oui, il y a beaucoup de monde. À Asfo, je sors de ma tanière. Je suis fan de BTLV depuis un bail et je faisais ma timide et j'en ai marre. Et voilà, elle se montre et vous avez bien fait Asfo, on est ravis. Il y a nos plus fidèles, j'ai des On te parle qui dit bonjour. Ils se disent bonjour entre eux également, les abonnés de BTLV. Fleur d'étoile qui... Elle, je ne sais pas si c'est recommandé. Moi, j'ai retardé de faire mon devoir de citoyen, élection fédérale au Canada, car je ne voulais pas vous manquer. Je ne sais pas ce que c'est concrètement, comment ça se passe au Canada exactement, Fleur d'étoile. Je serais curieux de savoir. Et il y a aussi, plein de monde sur Twitch également. Il y a Ted Bund qui nous dit bonsoir, Mister Mibou aussi, bonsoir Bob à toute l'équipe. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde ce soir pour la Libre Antenne.
Alors, on va accueillir dans quelques instants Nicolas. Je crois qu'on l'a récupéré. Nicolas est avec nous. Bonsoir Nicolas, est-ce que vous pouvez...
Bonsoir,
je suis ravi de vous accueillir Nicolas. Nicolas, vous êtes où en France?
Je suis à Paris, dans
D'accord.
le 20e.
Ok, Paris 20e. Vous faites quoi dans la vie Nicolas?
Je suis jardinier aux espaces verts de la mairie de Saint-Maur-des-Fossés en agent d'entretien.
Magnifique, vous avez bien fait, c'est un joli métier. C'est ce que je dis Merci. Toujours, vous savez, j'adore les arbres. Chez moi, j'ai la chance d'avoir un jardin et de les faire pousser, de regarder. Je descends tous les jours dans mon jardin, je me dis que si je n'avais pas été journaliste, eh bien, j'aurais certainement été jardinier, ou en tout cas en train de faire des jardins, parce que j'adore ça, la nature. Mon Nicolas, vous avez observé un ovni, je crois, c'est ça?
Oui, quand j'avais une quinzaine d'années à peu près.
Racontez-moi.
Dans les années 80, j'ai fait un texte sur ma tablette, je vais essayer de vous lire.
Allez-y, on vous écoute, on est tout ouïe.
Voilà, je vais vous parler d'une histoire vraie qui m'est arrivée dans les années 80 étant jeune enfant. Je l'ai gardé cela pour moi pendant plusieurs années et que je veux faire part à vous ce soir sur BTLV de mon histoire incroyable. Je ne raconte pas un mensonge, mais bien la réalité, ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'écris un témoignage car je crois que j'ai vécu un jour un phénomène OVNI pendant mon enfance. Ce n'est pas une blague ni une hallucination. J'avais à peu près une dizaine d'années ou plus. À l'époque, je ne me souviens plus vraiment. Aussi, il y a quelques années, cela s'est passé. Je pense que c'est dans les années 80. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, en 2021. Quand j'étais petit, j'allais souvent en colonie de vacances à la montagne en Savoie, à côté de Chambéry, à Lozé. Œuvre de secours aux enfants, OSER, est une association destinée au secours des enfants et à l'assistance médicale aux enfants persécutés et à secours de plusieurs milliers d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon cousin, qui s'appelle Laurent Benovici, était directeur de la colonie de vacances religieuses de l'OSER. Et j'allais à peu près chaque hiver et en été en vacances. Je précise, quand j'étais petit, j'étais renfermé sur moi-même car je suis diagnostiqué autiste étant enfant. Car j'étais diagnostiqué autiste. J'ai relu le même texte.
C'est pas grave, allez-y, prenez votre temps, calmez-vous, ça va bien se passer. L'important, c'est qu'on découvre votre histoire. Donc, vous aviez été diagnostiqué autiste et c'est là que vous étiez arrêté. Allez-y.
Voilà. Car j'avais assez de problèmes étant petit et j'ai eu une enfance assez difficile. Le phénomène que j'ai été témoin, c'était un soir d'été et j'étais seul, comme j'ai l'habitude, dehors, dans la cour du chalet de la colonie, de Plainpalais-les-Déserts, pendant que la plupart des colons et moniteurs faisaient une veillée dans le grand chalet.
Allez-y, prenez votre temps, calmez-vous, ça va bien se passer.
Je vais essayer de lire plus lentement. J'étais dehors dans la cour du chalet. La plupart des enfants étaient dans le grand chalet à faire une veillée et avec les moniteurs. Le phénomène que j'ai été témoin, c'était un soir d'été. J'étais seul comme à mon habitude, dehors, dans la cour du chalet de la colonie du Plainpalais-les-Déserts. Pendant que la plupart des colons et moniteurs faisaient une veillée dans le grand chalet, je me trouvais dehors sous un ciel étoilé d'été, comme toujours enfermé dans mon monde et dans ma bulle. Comme tout à coup, je lève les yeux vers le ciel et je vois avec étonnement une boule orange lumineuse qui se déplaçait vite dans le ciel, sans aucun bruit, sans aucun son. Cela me semblait assez étrange. Juste après le passage de cette boule orange, lumineuse, à la même altitude que l'objet, à peine une minute après, un avion de ligne a passé, au même cette fois-ci, avec le bruit des réacteurs de l'avion. Donc, je n'ai pas rêvé. J'ai bien vu l'objet orange, sphérique, se déplacer vite, sans aucun bruit. Or, que l'avion, lui, qui est passé au même endroit, quelques minutes après, par contre, lui, il faisait du bruit avec ses moteurs. J'ai raconté à personne cette histoire, ni à mon entourage, sauf à quelques personnes de confiance. Trouvez-vous que j'ai inventé? Pour moi, j'ai bien vu quelque chose. Ce jour-là, j'ai pas rêvé, j'en suis sûr.
Alors, je vais vous dire une chose. Déjà, on ne pense pas que vous l'ayez inventé. C'est ce que vous avez vécu. Encore une fois, je le dis souvent, Nicolas, vous savez, c'est la vérité de tous ceux qui viennent ici. On n'a pas à juger. Vous avez vécu quelque chose, vous le livrez et vous le racontez parce que ça vous a marqué. Et vous avez bien fait de le faire. Juste une question, cette boule orange-là, est-ce que vous l'avez estimée à quelle hauteur et à quelle taille à peu près?
Très loin dans le ciel, enfin très loin, c'est une boule, j'ai pas la notion des distances, très haut dans le ciel.
Par rapport à l'avion que vous avez vu,
est-ce que
c'est en haute altitude? C'est-à-dire qu'un avion aujourd'hui, ça croise à peu près à 10 000 mètres d'altitude quand on les voit haut dans le ciel. Vous pouvez imaginer que la boule était assez...
Oui, surtout qu'il faisait nuit, le ciel était étoilé.
D'accord. Et cette boule, elle a fait des mouvements particuliers ou elle est passée simplement?
Elle est passée simplement de droite vers la gauche. Elle a disparu derrière la montagne qui s'appelle le Malgeria, en Savoie. Elle D'accord. a disparu derrière la chaîne de montagne.
D'accord, ok.
Bon, bah écoute. Est-ce que dans la presse locale ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des retours, des témoignages similaires?
Non. Je ne sais pas du tout parce que j'ai gardé ça pour moi et qui l'ont vu.
D'accord. Ma question peut paraître un peu stupide, mais est-ce que vous avez gardé cela pour vous? Pourquoi d'ailleurs? Vous aviez peur d'être jugé ou...
Ouais, comme un peu de raillerie, quoi. Donc j'ai gardé ça pendant plusieurs années. Et là, je ne sais pas, étant adulte, j'avais envie de le raconter.
Ben, vous avez bien fait parce que parfois, c'est ce que je disais en préambule, hein, en début d'émission, souvent c'est un poids assez lourd que l'on a sur l'estomac parce qu'on n'a pas réussi à s'en libérer. Et vous avez fait sur BTLV, je ne peux que vous en remercier. Dans tous les cas, depuis, ça vous a ouvert l'esprit sur l'ufologie, sur les objets volants non identifiés, Nicolas?
Bah, à dire vrai, je pense que ce serait prétentieux de dire que l'humanité est seule dans l'univers.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
En plus, je suis croyant en Dieu et je pense qu'il nous laisse des surprises à faire des découvertes. Voilà. Et tout ce que je voulais dire, et voilà, c'est tout.
Non, bah écoutez, en tout cas, merci de l'avoir fait sur BTLV. On vous souhaite une.
J'en ai parlé à Jean-Claude Bourret, dans ma liste d'amis sur Facebook.
D'accord, bah écoutez, j'imagine que Jean-Claude vous a bien reçu. Et d'ailleurs, j'étais avec lui il n'y a pas longtemps en échange. Et effectivement, ce sujet l'intéresse toujours autant. Merci Nicolas d'avoir été avec nous et prenez soin de vous.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Merci d'être là. Et Jocelyn, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, juste un petit commentaire. Juste dire que ce type d'observation est quand même très très fréquent au-dessus des montagnes. Que ce soit en Savoie, en Isère.
On se souvient que Nelson Montfort avait vu la même chose aussi en montagne. Ouais. Il était venu le relater ici.
Voilà, donc c'est un endroit, la zone autour de Chambéry, et puis enfin, on va dire toutes les Alpes, où, on voit, où les gens voient énormément d'ovnis. Ouais.
C'est quand même assez étonnant. C'est vrai que bon, c'est à 10 000 mètres d'altitude environ, parce que c'est très très haut. Mais quand on voit un point lumineux se déplacer... Alors, ça peut être plein de choses. Hein.
Notre témoin a dit que c'était une nuit très étoilée. Ouais. Donc lui, il a peut-être une très belle vue. Pourquoi pas un satellite hein.
Oui, ça peut être ça.
Franchement,
peut être ça.
Par les belles nuits d'été, quand tu n'as pas de pollution lumineuse, les satellites, tu les vois.
Et en montagne, il y a rarement de la pollution. Donc.
Les rares fois où j'ai vu des satellites à la nuit, c'est en montagne.
Donc dans tous les cas, faites comme Nicolas. N'hésitez pas à nous livrer votre expérience dite étrange, inexpliquée, mystérieuse, puisque vous pouvez le faire comme l'a fait Nicolas, en toute anonymat. On ne vous voit pas, fait que vous écoutez. Vous avez pour cela le 01 86 22 21 20 ou alors rédaction@btlv.fr. Tom.
Nathalie Lamy sur YouTube est également témoin, a été témoin d'un ovni le soir du réveillon de Noël avec mon gendre. Nous avons observé des boules oranges qui bougeaient dans tous les sens et surtout à une vitesse incroyable. On ne sait pas du tout ce que cela peut être. On a toujours vraiment des caractéristiques très similaires, toujours des sphères qui bougent très vite.
Alors après, ça dépend de là. Si c'est très très loin, tu peux prendre quelque chose pour une sphère, alors que c'est un point lumineux, mais ça peut être triangulaire, rectangulaire. Mais c'est tellement haut qu'on voit juste la lumière, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que les gens voient
ça. Dans l'histoire de l'ufologie, tu as eu en fait des différentes formes. Ouais. Tu as eu les fameuses soucoupes, et après, il y a eu des cigares, les cigares d'abord. Ouais. Il y a eu les prismes aussi, des sortes de diamants, là. Et puis, et là, mais c'est vrai que depuis, on va dire une dizaine d'années, on entend essentiellement parler de boules, très très souvent oranges, et de triangles avec une lumière rouge au milieu.
Ben, c'est ce que dit Fox aussi. En revanche, il dit voilà, on revient aux boules oranges, années 80.
Bah ouais.
Oui, ça commence aux années.
Le témoignage de Nicolas, c'était aussi.
Mais en même temps.
Ouais, non, mais il a raison, c'est ça.
Mais en même temps, pour reprendre une formule consacrée par le président de la République, et en même temps, on a bien ressorti la Mini et la Fiat 500. On peut imaginer que les extraterrestres ressortent leur véhicule vintage pour venir nous voir. Donc, on peut tout imaginer. Ce qu'on peut imaginer également, c'est que le 20 novembre prochain, en tout cas, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez vivre une journée exceptionnelle. Regardez, on vous invite à participer aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué.
BTLV vous convie aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct.
Parce qu'il disait, si on organise, grâce à ces géographies naturelles, nos bâtiments, nos institutions, avec la signification de ce qui donne le croisement entre le fleuve et le passage du soleil, nous avons une croix céleste et terrestre.
Ce sont des phénomènes inexpliqués, en même temps souvent médiatisés. Mmh. C'est ça qui est intéressant parce que tu en as d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Tu as des témoins, mais il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Alors que là, souvent, il y a beaucoup de témoins qui voient beaucoup de choses.
L'histoire que je vais vous raconter est par Stephen King. Elle contient assez de frissons et de ténèbres pour être, vous savez, un de ces contes cruels qui n'aident pas au sommeil.
Après avoir vu ces lumières de l'endroit où nous chassions, nous avons alors réalisé qu'il s'agissait d'un appareil rond qui avait la forme de deux cuvettes renversées.
Des ordres illuministes, il y en a deux aujourd'hui, qui font parler d'eux, qui se sont répandus dans un certain nombre de pays, 56 pays, hein, où la philosophie est d'un tout.
Voilà les rencontres du mystère et de l'inexpliqué avec toute une pléiade d'intervenants qu'on sera ravis bien sûr de vous présenter durant cette journée. Regardez Fernand Schwartz, Jocelyn F. Keller, Egon Kragel, Philippe Lienard, Christian Doumer, Joseph Davidovitz, Patrice Marty. Une première partie très masculine. Et puis les filles vont prendre le pouvoir en soirée avec Pascal Lafargue, Muriel Siron, Florence Hubert, Françoise Nallet, Anne de Villebichot. Une journée qui va démarrer aux alentours de 9h45-10h et qui va vous emmener jusqu'à 23h minuit. Ça va être exceptionnel avec des films aussi qui vous seront proposés en documentaire durant cette journée. On est ravis de vous accueillir pour cette libre antenne. 01 86 22 21 20. Le standard vous est ouvert, la ligne est ouverte. Allez-y, parlez sans crainte. Marilène est avec nous. Bonsoir Marilène.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous accueillir Marilène. Vous nous appelez d'où Marilène?
Je vous appelle de Lens.
De Lens, magnifique ville de football, puisque le club de Lens est quand même très, très, très joyeux dans les tribunes. Alors, Marilène, vous vouliez nous parler d'un rêve prémonitoire, c'est ça ?
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Dites-moi tout.
Alors, en fait, donc Lens, c'est là où j'exerce, où j'ai mon cabinet. Sinon, je suis plutôt vers Arras. Et là, ce soir-là, c'est un vendredi, j'avais décidé de dormir à mon cabinet puisqu'il y avait des petits travaux dans ma maison.
Ouais.
Et donc, mon rêve démarre comme ça. Je me trouve dans un appartement que j'avais sur Créteil à l'époque avec mon mari.
Mmh.
Et je me vois dans l'appartement, je nettoie les murs, je sais que je vais emménager.
Mmh.
Et là... je ne comprends pas parce qu'en même temps, je suis consciente, je sais que je n'ai rien à faire dans l'appartement. Je ne comprends pas comment, parce qu'en fait, je n'ai pas signé de bail, comment j'ai fait pour avoir les clés, je me pose plein de questions. Et puis, les déménageurs arrivent, ils me disent, bon, ben voilà, on y va. Bon, ben, je leur dis, écoutez, oui, ok, on emménage, mais je ne sais toujours pas ce que je fais ici. Et puis, je vais dans la chambre d'une de mes filles et là, j'ouvre un placard et je m'aperçois que j'ai laissé depuis plein d'années, qui reste des vêtements à mon mari, qui entre-temps, maintenant, bon, il est décédé. Donc, bien sûr, je suis dans l'émotion, je pleure parce que je vois ses chemises avec le tissu, je vois tout est précis, je vois bien les motifs, les couleurs et tout. Et puis, d'un seul coup, il y a une sirène qui se met en marche et la voix d'un homme qui parle au micro et qui nous dit « Abritez-vous tous, on est envahis par les extraterrestres et c'est la faute des Russes ». Donc là, je pars directement dans le salon et là, je vois un immense vaisseau blanc qui est vraiment devant la baie vitrée et je sens qu'il y a plein d'autres vaisseaux qui arrivent parce que je sens des vibrations, mais vraiment des vibrations qui arrivent de partout. Et là, je m'accroupis, je mets les bras sur la tête et je me dis, bon ben voilà, là c'est la fin du monde, c'est fini, on va tous y passer, on va tous mourir. Et j'ai le temps de réfléchir et je me dis, je pensais pas que ça allait être dans cette vie-là, que ça allait arriver si vite. Et donc je sens vraiment les vibrations. Et là, je me réveille.
Mmh.
Et je m'aperçois, c'est-à-dire que tout vibre encore, j'ai la sensation vraiment de vibrer encore et que le lit vibre.
Mmh.
Donc, bon, je me lève, je vais boire un verre d'eau et je me recouche. Et le lendemain, au réveil, je m'aperçois que ma montre s'est arrêtée à 5h25.
Mmh.
Et 5h25, c'est l'heure de la mort de mon mari. Et en plus, toutes les petites perles qu'il y avait, parce que c'était une montre étanche, une grosse montre blanche étanche, toutes les petites perles qu'il y avait autour étaient parties, se sont décollées.
D'accord.
Alors, faut savoir que ça, c'est arrivé un mois avant le premier confinement.
Mmh.
Qui veut dire que, voilà, quand on nous a dit « abritez-vous tous, on est envahis par les extraterrestres », pour moi, ça avait un rapport avec le confinement.
D'accord.
Donc, bien sûr,
Donc, pour vous, je vous coupe, pour vous, le virus, c'est les extraterrestres, en fait, c'est ça ?
Bah, en fait, il y a quelque chose quand même au niveau de... Pour moi, l'histoire du Covid, c'est... Enfin, quand je veux dire...
Donc, vous avez fait le lien, quoi, en fait, c'est ça.
Oui, j'ai fait le lien. Mmh, et voilà.
Okay.
Donc, ce qu'il y a justement d'extraordinaire, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose, puisque ma montre s'est arrêtée et que les petites perles se sont décrochées. Donc, je me dis, au-delà, ça a été plus qu'un rêve, quoi, pour moi.
D'accord. Voilà. Donc, c'est assez marrant de voir que...
Il y a beaucoup d'éléments,
il y a beaucoup d'éléments
un peu disparates pour... Enfin, moi, quand je l'écoute, il y a l'histoire avec votre mari décédé. Excusez-moi d'être indiscret, il est décédé...
En 2008.
D'accord, il y a quelques années, ok. Donc, bien avant cette histoire, parce que le rêve, vous l'avez fait...
Là, juste avant le confinement.
Juste avant le confinement.
Un
mois avant, en février, juste avant le premier confinement qu'on a eu le 18 mars.
Alors c'est vrai que l'histoire de la montre est assez étrange parce que ça correspond, l'heure correspond, veut dire quelque chose pour vous et souvent dans ce type de rêve ou de choses, il y a toujours un signe.
Mmh.
Après le fait de voir, de rêver d'une catastrophe, moi je veux vous dire ça m'arrive tout le temps. Au point que je voulais, en me réveillant, je veux prendre des notes pour écrire des romans de science-fiction.
Mmh.
Ah ouais.
Parce que je vis en rêve ou en cauchemar, parce que parfois ce sont des cauchemars, des invasions d'extraterrestres, des fins du monde, enfin voilà. Et je pense qu'il y a un sens derrière, quand on rêve d'apocalypse ou de fin du monde, ça veut dire autre chose. Alors après, moi je ne suis pas un analyste.
Oui.
On a sur la chaîne ici, chez BTLV, des gens qui peuvent analyser ça, mais qui vous diront que... Ça traduit quelque chose chez vous de plus personnel, de plus intime.
Alors justement, je vous invite à regarder l'émission de demain avec avec Tristan Moire, qui est un spécialiste des rêves. Il est avec Sandrine Chopin dans Un aparté. En fait, la question qu'il pose, c'est les rêves sont-ils les messagers de notre âme ? Donc voilà, c'est très important. Il y aura plein de réponses demain soir sur BTLV, parce D'accord. qu'effectivement... Jocelyn a eu raison de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent... ça veut dire souvent le contraire. Quand on voit une mort, c'est pas la mort. C'est la fin de quelque chose, bien sûr, mais oui. ça annonce pas forcément un décès. Le fait, oui. finalement, l'analogie entre le virus et les extraterrestres, elle est peut-être pas mauvaise. Vous vous dites, tiens, oui. on va être envahi par quelque chose. Alors, pour vous, oui. c'est extraterrestre, mais effectivement, ça a peut-être été... Ça a peut-être un rapport, effectivement, avec le virus, le fait qu'on soit confiné, la fin... On a parlé oui. de fin du monde, on a vu des scènes apocalyptiques, quand même, pendant ce premier confinement, des rues désertiques, comme s'il y avait une guerre. C'était assez, oui. C'était assez prenant. Donc, vous, c'est le rapport oui. que vous avez fait, de toute façon.
Bah, disons que j'ai fait le rapport, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand on me dit « abritez-vous tous mmh. »,« abritez-vous tous », on est envahi par les extraterrestres. Pour moi, l'extraterrestre, c'était le virus, en fait. Voilà, j'ai analysé comme ça. Et de dire de s'abriter, je fais beaucoup de rêves prémonitoires.
Ah, voilà, c'est ça.
Ça, j'avais jamais fait.
C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous faites beaucoup de rêves prémonitoires ? C'est ça. Vous en faites beaucoup ?
Oui, mais j'en fais beaucoup. D'accord. Oui. J'en ai fait beaucoup après la mort de mon frère.
D'accord. Et ils se sont révélés souvent vrais ?
Alors, en fait, je communiquais avec mon frère par des rêves.
D'accord, ok.
Où il pouvait m'expliquer, oui.
D'accord, enfin, ça c'est marrant parce que ça arrive souvent.
Pour qu'un rêve soit prémonitoire, il faut que quelque chose se concrétise après.
Ouais.
Sinon, ça reste qu'un rêve.
Oui, oui. Mais en fait, mon frère me prévenait souvent de danger. Et souvent, 3 jours après, il me prévenait. Par exemple, comme quoi j'allais tomber ou que j'allais me couper avec un couteau en faisant les légumes. Des petites choses, hein, mais ça arrivait souvent 3 jours après. Oui.
Et par extension, Marilène, est-ce que ces rêves prémonitoires vous avertissaient de dangers inévitables ou ils vous ont influencé dans une certaine mesure ?
Je faisais attention, mais j'étais plutôt dans la peur parce que quelque part, même s'ils nous préviennent, on ne pouvait pas vraiment... Ça arrivait quand même. Quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu de destination finale, le film. C'est-à-dire que si ça doit vous arriver, ça vous arrive. Il y a presque une destinée, il n'y a pas de hasard.
C'est toujours ça, quand tu fais un rêve que tu considères comme prémonitoire, tu te dis, après, tu fais attention. Si tu rêves que tu vas avoir un accident de voiture, quand tu vas prendre le volant, tu vas être très, très prudent.
Bien sûr, on est plus attentif. Oui, bien sûr.
Alors, je vous invite à regarder une série qui est sur Netflix en ce moment. Non, pas Netflix, Prime Video, qui s'appelle Night Perfect Stranger. Avec Nicole Kidman, donc c'est une elle est à la fois thérapeute et gourou dans un centre de bien-être et il y a 9 personnes qui vont se retrouver dans ce centre et c'est bien sûr les relations entre ces 9 personnes et parmi lesquelles il y a une famille, donc papa, maman et une jeune fille, et ils ont perdu le jumeau de leur fille, et grâce à des psychotropes, là ils vont aller chercher le contact. C'est très BTLV comme série, en tout cas, voilà, puisque vous avez des contacts dans les rêves, et ben là c'est par une porte qui s'ouvre par des psychotropes. Alors vous, c'est naturel, mais ils le font comme ça. En tout cas, mille merci d'avoir été avec nous, Marilène, de nous avoir livré votre témoignage. On vous embrasse et, comme je le dis à tous, prenez soin de vous.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
On va faire un tour sur le web avec Tom avant de justement découvrir l'actu du web et des boules qui ont été repérées dans le sud de la France.
Martine Saliès, bonsoir à tous. Je voudrais bien savoir où est passé François, mais enfin, François, c'est moi. J'ai juste fait un petit lifting et une petite coloration et en avant Guingamp, voilà.
Alors François, vous le retrouvez le mercredi dans Les Affranchis de l'Info. Il se destine à d'autres, projets sur BTLV, hein, mais vous aurez l'occasion de vous en apercevoir.
Lia Masta, moi je rêve de décès et les personnes décèdent. Alors là, c'est
pas bien,
sacré prémonition.
J'espère que vous ne rêverez pas de moi. Voilà.
Ou alors dans d'autres circonstances. Je crois qu'on a eu un témoignage similaire de la semaine dernière. Je crois que c'était la même personne d'ailleurs. Évidemment, n'hésitez pas à témoigner si vous avez vu des choses. On revient aux ovnis. Lié à Masta, toujours, on a également vu un ovni en 2018, forme triangulaire, aucun bruit et 50 mètres au-dessus de notre tête. Et enfin, Gédéon te parle et est persuadé, les rêves sont réels et pas uniquement symboliques.
Eh bien écoutez, continuez à nous écrire dans le chat sur BTLV. Je rappelle que BTLV, c'est une chaîne par abonnement. Il vient bien sûr, il y a le clair hein, sur les réseaux sociaux. Et puis, toutes les émissions que nous vous proposons, elles sont encryptées pour les abonnés des milliers d'heures d'émissions sur le mystère, l'inexpliqué. En ce moment et jusqu'à la fin du mois de septembre, si vous vous abonnez. Après, ça s'arrêtera. Hein. On vous offre Fougeray, un château hanté, pas comme les autres. Le documentaire, bien sûr, partie 1 et partie 2. On va rester sur la toile. Avec la semaine dernière, on va regarder tout de suite les images. Les adeptes d'ufologie qui ont vu du côté de Montpellier, c'était le 15 septembre dernier, ont vu dans ces lumières, bien sûr, l'invasion extraterrestre qu'ils attendent tous. Alors, ça a défrayé la chronique sur la toile. Et voilà, tout le monde y a vu, bien sûr, l'arrivée en masse d'objets volants non identifiés. Et puis finalement, on s'est vite rendu compte que c'était des lasers, voilà, des lumières qui ont fait ça dans le ciel. Alors, souvent, les boîtes de nuit font ça et trompent un peu le...
Des événements,
voilà,
des festivals.
Voilà, là, c'est un événement particulier qui a fait que ces lumières ont tournoyé dans le ciel. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on voit sur la toile, même si ça paraît complètement fou, vrai. On se dit, ah, ça y est, ils sont là. Et puis, finalement, ils n'étaient pas là. En tout cas, il y avait quelqu'un qui s'amusait avec des jeux de lumière. Voilà pour l'actu du web. On va continuer au 01 86 22 21 20. Dans un instant, on aura Mélanie. On va parler de possession. C'est rare.
Le phénomène OVNI n'est plus un fantôme.
Non, pas du tout. Voilà. Mathis, qu'est-ce qu'il y a? Tu dégaines trop vite? T'es énervé? T'as envie de partir ou quoi? Je voulais juste vous signaler que, puisqu'on parle d'OVNI, effectivement, l'actu OVNI a toute sa place sur BTLV. On est en train de vous préparer des émissions incroyables. Il y en a une qu'on a postée qui est fabuleuse avec Paola Garrigo sur un cas de Falcon Lake en 1967. Elle est en ce moment sur BTLV. En tout cas, l'actu, elle est sur btlv.fr.
Le phénomène OVNI n'est plus un fantasme, il est une réalité.
C'est un rapport qui répond à une question: que sont ces apparitions dans le ciel américain?
Officialisé par le Pentagone américain, il interroge et pose problème aux armées du monde entier, incapables de réagir face au mouvement et aux propriétés technologiques de ces objets volants non identifiés.
UFOs are real. That's what the report is saying.
C'est pourquoi BTLV vous informe, jour après jour, sur le dossier le plus brûlant du siècle.
On a des choses factuelles insensées, on nous parle d'objets physiques. Je crois 80 cas ont été repérés.
Qu'en sera-t-il de mes invités? Le gratin de la recherche ufologique est sur BTLV ce soir.
Interview, articles, témoignages, rien ne peut vous échapper.
Dans cette vallée, on peut voir apparaître des boules de lumière qui se promènent, qui disparaissent.
L'engin avait plané au-dessus de la centrale pendant 6 ou 7 minutes.
Parce qu'ils avaient des caractéristiques de vol inconnues, stationnaires dans des vents violents d'altitude, ils se déplaçaient contre le vent, ils allaient à une vitesse considérable sans moyen de propulsion.
L'actualité a jamais été aussi rythmée par des déclarations.
BTLV, le média numéro 1 sur les ovnis.
Voilà, c'est à votre disposition toutes les émissions sur les ovnis. Je fais d'ailleurs Mister Tiketi, qui est un Brésilien spécialiste des ovnis au Brésil, la semaine prochaine en duplex, et ce sera posté bien sûr à destination des abonnés sur btlv.fr. Allez faire un tour sur le site btlv.fr. Vous êtes des milliers chaque mois à aller faire un tour, mais vous êtes nombreux aussi à nous découvrir, à nous dire mais c'est quoi BTLV? Est-ce qu'on s'abonne à Facebook, YouTube? Non, on s'abonne bien sûr à btlv.fr pour avoir accès à tout BTLV. Mélanie, au 01 86 22 21 20, est avec nous. Et avant de la recevoir, Mathis était en train de nous montrer effectivement le site btlv.fr. Vous avez tout à votre disposition, voilà, l'actu, toutes les cases qui sont là. C'est le site incontournable quand on aime le mystère. Et bonsoir Mélanie, je suis très heureux de vous accueillir sur BTLV.
Bonsoir à tous.
Comment ça
Merci,
va
Merci, c'est gentil. Bien, et vous?
Bah écoutez, je suis en pleine forme Mélanie. Vous êtes où, quelque part en France, à l'étranger? Vous êtes où?
Oui, je vis à Cannes actuellement avec mon fils.
Ah, c'est dur hein, Cannes. Hein.
Voilà, on a la belle vie à Cannes.
Ah,
c'est beau.
C'est...
Il ne pleut jamais.
Mais non, c'est ça. Écoutez, ouais, j'ai de la chance. Hein, je pars jeudi à l'Allon-de-les-Morts. Donc, c'est pas très, très loin quand même.
Pas très loin.
Voilà. Donc, c'est dans le Var. Alors, dites-moi, même si oui. Cannes, c'est pas dans le Var. Hein, Cannes, c'est pas Cannes.
Non.
C'est ça, c'est les Alpes-Maritimes.
Non, Alpes-Maritimes.
Hein, c'est Alpes-Maritimes. Exactement.
Bon, alors, dites-moi, racontez-moi ce qui vous est arrivé, Mélanie. Il y a 4 possessions, alors, je crois, c'est ça?
J'ai eu 3 possessions suivies d'une 4e possession, mais démoniaque.
Oula, racontez-moi tout.
Quand j'avais 18 ans, en 1997.
D'accord.
C'est-à-dire que je suis partie au Portugal avec mes parents.
Ouais.
Passer des vacances. nous avions une maison qui était entretenue par une tante, la femme de mon oncle. Mmh. Et s'est passé des choses un peu bizarres à notre arrivée. Donc, il y avait eu des cérémonies enfin, religieuses. Je ne sais pas si c'était religieuse ou plutôt...
mystique, un peu.
Exactement, comme un peu secte, vous voyez, avec des bougies, de l'huile d'olive partout. Bon, enfin, bref. Mmh. Et du coup, quand j'étais jeune, j'ai pas fait trop attention. Hein. Je suis arrivée, j'ai posé mes bagages, j'ai été rejoindre mes amis. Mmh. Et en fin de compte, ça a été la dégringolade totale. Pendant un mois, j'avais eu des problèmes avec, à toujours m'énerver avec, avec les autres. Mmh. Donc ça a commencé vraiment avec l'énervement, à agresser mes parents sans savoir pourquoi. Mmh. Et finalement, en rentrant en France, j'ai... en fait, reçu comme 3 tonnes de poids sur moi. Mmh. Et je suis vraiment tombée malade.
Alors, c'est-à-dire que... juste, je m'arrête. Quand vous étiez encore sur place, vous avez senti que votre comportement a changé ? C'est-à-dire que vous...
Exactement.
D'accord.
C'est-à-dire que je suis devenue agressive.
D'accord. Sans savoir pourquoi. C'est-à-dire que vous posiez la question, vous ne compreniez pas pourquoi il y avait, vous étiez à fleur de peau et agressive, en fait, c'est ça ?
Exactement. Sans savoir la raison, hein. Mmh. Il y avait des moments où je
Vous aviez quel,
je
vous aviez quel âge ?
18 ans, elle avait.
18 ans. Ah oui, d'accord, vous n'étiez pas adolescente. Hein, vous étiez adulte.
Pas du tout. En fait, je n'avais jamais eu de problème avant cela. Hein. Mmh, donc, j'étais quelqu'un de très sportive. Je faisais de la natation de compétition. Donc voilà, c'était, j'avais vraiment une
vie normale.
Belle enfance. Mmh. Une vie normale, voilà. Et ma vie, en fait, a dégringolé le premier jour que nous sommes arrivés de voyage du Portugal. Mmh. Comme je vous dis, hein, j'ai eu une sensation comme si j'avais 3 tonnes qui me tombaient dessus, l'impression que une hémorragie cérébrale, vous savez, on a l'impression que le sang qui monte au cerveau. Mm-hmm. Ensuite, mes parents, bah, ils ont eu peur parce que je hurlais de douleur, quoi. C'était inexplicable. Et je suis allée aux urgences, on n'a rien trouvé, mes analyses étaient normales. Mm-hmm. Et suivi de ce soir-là, le premier jour où je suis arrivée, j'ai eu des problèmes de j'entendais des pas dans ma chambre, voilà, je sentais que ça n'allait, voilà, d'accord, vous voyez.
Et vos parents là, j'imagine qu'ils sont un peu inquiets par rapport à tout cela à ce moment-là.
Exactement. Ouais. Moi, j'ai perdu l'appétit, je ne mangeais plus en fait. C'est-à-dire que j'ai perdu 20 kilos en 2 mois.
Ah oui.
Ah oui. Pour quelqu'un qui était très sportif, hein, j'avais vraiment un corps d'athlète, hein, parce que je faisais également de l'athlétisme, donc c'était. Mmh. J'ai perdu, je ne pouvais plus me lever. J'avais plus de force physique. C'était ma mère qui était obligée de me laver. Mmh. Et du coup, si vous voulez, j'ai eu plusieurs apparitions après.
Alors, dites-moi, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, donc il y a cette première phase, Portugal, vous sentez que vous devenez agressif. Quand vous revenez en France, il y a ce poids sur la poitrine, ce poids très très lourd. Et puis, commencez à sentir qu'il se passe quelque chose dans votre tête. C'est-à-dire que vous avez des visions, et quelles sont-elles, ces visions ?
Alors, ce n'est pas des visions. Vous savez, le ressenti, on sait qu'il y a quelqu'un dans la pièce.
D'accord.
C'est-à-dire que...
La clair-sentence, c'est ça, c'est la clair-sentence, c'est ça, d'accord.
Okay. Exactement. Je sentais les gens qui marchaient autour de mon lit.
Ah ouais.
Tous les soirs, hein, c'était infernal. Des grincements au niveau des murs, au niveau de mes oreilles ou de mon oreille, c'était une horreur. On me tirait les couvertures.
Ah ouais. Donc physiquement, il y avait une action sur l'environnement et la pièce, en fait, c'est ça ?
Oui. Et j'avais, à l'intérieur de moi, j'étais possédée, hein, mais je vais vous expliquer la suite. Hein.
D'accord.
C'est-à-dire que j'avais ce contact avec, je ne sais pas, des êtres qui étaient autour de moi, hein, des âmes, je ne sais pas, hein, du tout qui c'était, qui était.
Des présences.
Des présences, ouais, exactement. Et on s'assied tous les soirs sur mon lit.
Ah. Donc vous sentiez qu'on s'appuyait sur vous, en fait, c'est ça ?
Exactement. Hein, j'avais ce poids de 3 tonnes. J'avais aussi l'impression d'être toujours étranglée. Voilà, le sang au cerveau. Enfin, c'était une horreur. Hein. Mm-hmm. J'avais en plus de ça, bah, des esprits autour de moi qui me persécutaient, quoi. En fait, hein, mm-hmm. tous les soirs, c'était une horreur, quoi. Et j'avais également quand je rôtais. Hein, je suis désolée de parler comme ça, mais quand j'avais des renvois. Mm-hmm. J'avais le renvoi, c'était l'odeur du soufre.
Ah, Okay.
C'est une horreur. Hein.
Ça, c'est assez marrant parce que ça revient aussi dans les cas de possession. Il y a des odeurs nauséabondes, c'est-à-dire que pestilentielles, quoi, c'est ça. Donc, c'est ça.
Oui.
Et vous entendiez des voix ?
Alors, c'est après.
D'accord.
Ça a été après.
Donc, c'est monté crescendo, en fait, c'est ça ?
Exactement. En fait, pas dans ma tête. Hein. Ouais. Les voix, je les entendais comme si quelqu'un était dans ma pièce.
D'accord, ok.
Okay. Donc, c'est vrai que ça fait très peur, parce que moi, suite à ça, j'ai eu de gros problèmes psychologiques après. Hein,
mais justement, qu'est-ce qui se passe ? Que font vos parents à ce moment-là ? Parce que...
Et ben, ma mère, elle a fait en sorte que je vois plusieurs médecins, parce que c'était pas normal. Mmh. Elle me voyait maigrir d'une rapidité. On a demandé si c'était pas de l'anorexie. Vous voyez,
Bien sûr. Bien, comme tous les parents s'inquiètent, on se dit, qu'est-ce qui se passe ?
J'ai tout fait, IRM, scanner, tous les examens. C'était, j'ai passé mes journées à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé d'anormal. J'étais en bonne santé.
Mais alors, vous dites à vos parents à ce moment-là, j'entends ou je sens des présences. Est-ce que vous parlez du côté un peu sombre, obscur ?
Oui, ma mère, elle le savait.
D'accord.
Parce qu'à ce moment-là, ça se manifestait aussi à la maison. Comme je vous dis, hein, dans ma chambre, mais ça se manifestait aussi dans les placards de la cuisine. Vous voyez, il y avait des choses qui disparaissaient. Voilà,
d'accord, donc en fait, vous n'étiez pas le seul témoin des phénomènes, c'est-à-dire que...
Non, toute ma famille a été témoin quand ils m'ont vu dans cet état-là. J'ai eu mon frère qui était très proche de moi, qui venait me voir, et quand moi je hurlais, parce que je hurlais de douleur aussi également, hein, parce qu'on me poussait dans mon lit, vous voyez.
D'accord.
Donc moi j'ai eu mon frère qui venait souvent, qui a 50 plus que moi, qui venait, qui observait que voilà, ça n'allait pas, j'avais l'impression de m'enfoncer dans le noir, dans un trou.
Et vos proches ont vu des phénomènes, on va dire, paranormaux ?
Rien du tout.
Ou extérieurs à vous ? Non,
il n'y a que moi.
D'accord. Ils ont juste observé des déplacements d'objets dans les placards, etc. Mais ils n'ont jamais vu l'objet se déplacer lui-même. Quoi. En fait, tu vois, c'est une constatation qu'il y a eu, c'est ça ?
Voilà, c'est exactement ça. En fait, ils n'avaient pas le... Si vous voulez, dans la maison, ils entendaient les bruits.
D'accord.
Mais pas comme moi, quand je disais, il y a quelqu'un qui marche à longueur de temps dans la chambre, des pas de chaussures, de mocassins, vous voyez. C'était vraiment... Et puis des bruits de boîtes de musique à l'ancienne. Vous savez que vous tournez avec la main, là, ça fait du bruit. Boîtes de musique.
Il y a tous les ingrédients du film d'horreur. Hein. C'est-à-dire que la boîte à musique,
C'est exactement ça.
Voilà. Alors... est-ce que vos parents sont croyants ? Est-ce qu'ils étaient croyants et ont-ils
affaire ? Très croyants.
J'imagine qu'en étant très croyants, ils ont dû faire appel ou penser inévitablement à la possession.
Ma mère, tout de suite. Alors, ma mère, à cette époque-là, on vivait avec un monsieur, un portugais également. Il a regardé ma mère comme ça, il a dit « Écoute, tu devrais aller voir quelqu'un parce que ça ne va pas, ta fille, elle est possédée. » Mais comme ça, elle lui a dit. Et ma mère, elle voulait pas trop croire à ça, mais bon, pourtant les croyants, on est catholiques, pas pratiquants, mais vous savez, les Portugais, c'est des gens qui sont très croyants. Et on a fini par aller voir quelqu'un.
D'accord.
Et en fait, cette personne, c'était une femme. Hein, elle était voyante, médium, mais elle travaillait avec une autre personne que j'ai jamais vue d'ailleurs. Hein, mais elle travaillait qu'avec des prières. Avec sans doute des curés, je pense, des prêtres. Et finalement, c'est elle qui m'a sauvé la vie.
D'accord.
C'est elle qui m'a sauvé la vie.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, il s'est passé que j'ai fait plusieurs séances chez cette dame-là. La première fois qu'elle m'a vue, elle m'a dit clairement ce que j'avais. Elle m'a dit, votre fille, elle est vraiment possédée.
Ouais.
Et ma mère, vous savez, on connaît les charlatans, hein, y en a un peu partout. Mais quand elle a commencé à lui dire que les trois personnes que j'avais en moi, parce que moi je savais que j'avais des problèmes, mais pas avoir autant de... être possédée de trois personnes, vous voyez.
Donc il y avait trois entités, visiblement, qui vous squattaient.
Exactement.
En fait,
alors, elle m'a sorti les noms. Hein. Elle m'a dit que c'était une personne qui était morte d'un accident de voiture, qui avait fait une hémorragie cérébrale.
Ouais.
Une personne qui s'est fait assassiner d'étranglement.
D'accord.
Et une personne qui est morte d'un cancer très grave, qui est mort amaigri.
Et toutes ces personnes-là, ou toutes ces entités, elles étaient dans la maison dans laquelle vous étiez au Portugal ? Parce que tout est parti de là, finalement.
Oui, tout est parti de la maison du Portugal.
D'accord. Donc ces entités, on peut imaginer qu'elles étaient là, ou alors ce lieu est un vortex, en tout cas un lieu de convergence pour des entités, et certaines ont vu une porte ouverte et vous ont squatté, en fait, c'est ça ?
Je pense, parce qu'en fait, cette maison-là a été reconstruite sur des... On a récupéré les vieux murs de la maison de mes arrière-grands-parents.
Mmh.
Donc, il y avait déjà eu des décès à l'époque.
Oui.
Donc je pense qu'il y a dû avoir quelque chose, en fait. Hein, je ne sais pas si c'est par rapport à de la sorcellerie qu'on a fait ou pas au Portugal. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai passé 8 mois dans l'enfer. J'ai été traumatisée pendant des années. Même à mon fils, je n'ai jamais voulu lui en parler de tout ça.
C'est 8 mois que vous passez en enfer, c'est le cas de le dire. Ouais. Hein. Donc, vous êtes aidée, il y a un exorcisme qui est pratiqué, il y a des gens qui viennent vous aider.
Exactement. Alors, elle n'a pas pu faire l'exorcisme tout de suite parce qu'il y a un long procédé. C'est-à-dire il y a plusieurs prières à faire. Bon, elle avait du travail à faire par rapport à moi. Donc, j'ai commencé à la voir. En fait, j'avais également du travail à faire. C'est-à-dire que moi, il fallait que je prie. J'avais des prières à faire et aller à l'église, mettre des cierges. Mais vous savez, c'est difficile quand vous êtes possédé et que vous devez aller dans une église.
Donc, vous sentiez que vous ne pouviez pas justement rentrer dans une église ?
Ah oui, c'est ça. Je ne pouvais pas rentrer, en fait.
Ah oui, donc, on a vraiment tout de la possession, quoi. Donc,
je ne pouvais pas marcher. C'était ma mère qui était obligée de me porter.
Ah. Et la médecine était. Elle n'avait aucun poids là-dessus. Rien. C'est-à-dire qu'elle était incapable de vous aider, en fait, c'est ça ?
Rien du tout. Parce que pour eux, j'étais normale. Je n'avais pas de problème de santé. Comme je vous dis, j'ai fait mes examens dans un hôpital, j'ai fait scanner, j'ai fait IRM, j'ai fait ponction lombaire, parce qu'ils ont tout regardé, hein, parce que comme j'avais des problèmes, ils pensaient que j'avais une méningite et tout ça, j'avais rien du tout, normal, prise de sang, normal.
Et aujourd'hui, Mélanie, est-ce que depuis vous êtes revenue dans cette maison ou vous n'avez pas pu ?
J'ai plus remis les pieds depuis que j'ai été possédée, exactement, parce qu'il y a eu des soucis après avec cette maison.
Alors, je veux juste à confiner quand même sur la possession et l'exorcisme, parce que comment ça s'est passé concrètement, parce que c'est ça qui est très intéressant.
Alors,
dites-moi tout.
Oui. Alors, en fait, cette dame-là, elle est venue chez moi.
Ouais.
Elle est venue seule. Hein. Ouais. Elle est venue avec une écharpe, vous savez, qu'ils ont les prêtres quand ils vont à l'église. Les croix, de l'eau bénite. Elle a prié, elle a fait sa prière, mais silencieusement. Sur moi, avec de l'huile aussi, parce qu'elle vous fait des croix d'huile. Et ma mère me tenait, je devais être debout, ça durait 2 heures, hein, 2 heures debout à faire sa prière. Et elle me dit à la fin de cette prière, tu dois retourner à l'église, tu dois mettre 3 cierges, et tu dois me faire 3 Notre Père, Je vous salue Marie, et puis Gloire au Père. 3 de chaque. Donc du coup, elle a fait ça. Je suis allée avec ma mère qui m'accompagnait à l'église. J'ai fait les prières. Le lendemain, le soir même, j'ai pu dormir. Je n'ai plus rien eu.
Ah.
Alors attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. En fait, dans l'histoire.
Attention, les démons sont de retour. Hein. J'ai entendu quelque chose faire du bruit. Hein, donc,
Non, c'est mon chien. C'est mon bébé chien. En fait, cette dame-là m'a bien précisé. Fais attention parce qu'il faut te fermer le coffre.
D'accord. Le coffre, c'était quoi ? C'était la porte d'entrée des démons, c'est ça ?
Et exactement, qu'on a dans notre poitrine, en fait.
D'accord.
C'est véridique, je peux vous dire que... Et elle m'a dit, je ne peux pas le faire tout de suite, il faut que je sois accompagnée. Donc du coup, moi, je pouvais remarcher, remanger, parce que vous savez, j'ai pas mangé pendant pratiquement 8 mois. Ma mère, elle me donnait 2 bouchées par jour, pratiquement, ou 3, de nourriture, plus je faisais que boire de l'eau. Donc, grâce à déjà au spiritisme qu'elle a fait sur moi pour enlever les 3 esprits que j'avais en moi, j'ai pu remanger et dormir en paix.
D'accord.
Donc, pour moi, ma vie, elle était repartie. Donc,
Est-ce que vous étiez consciente de l'action d'exorcisme qui se pratiquait pour vous ? C'est-à-dire que vous saviez que cette dame était là pour travailler sur vous, en fait, c'est ça ?
Oui.
D'accord.
En toute honnêteté,
je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous avez senti, un peu comme quand on va chez le toubib, c'est-à-dire qu'avant même qu'il vous donne un médicament, déjà vous allez mieux, est-ce que le fait que cette personne soit là, déjà, vous a permis d'aller un peu mieux sur place au moment où elle était là ?
Alors, au moment où elle était là, avant de commencer ses travaux, je ne pouvais pas la voir.
Ah, carrément, vous ne pouviez pas la recevoir, en fait, c'est ça. Ah,
oui, en fait, je tournais la tête. J'avais la mâchoire qui tremblait tout le temps. Enfin, c'est mon corps qui ne la voulait pas, en fait. Et du coup, on était obligé de me tenir. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'elle a fini ses travaux, je vous assure à 100% que je suis redevenue normale.
D'accord. Donc, il a fallu qu'une soirée, c'est ça ?
2 heures.
Qu'une journée quand elle est arrivée, une fois, parce que vous savez, elle a travaillé aussi en lien avec quelqu'un d'autre, hein, que je n'ai jamais vu, hein,
d'accord,
pour vous dire. D'accord. Et attendez, ce n'est pas fini, parce que le coffre qu'elle m'a demandé de fermer,
ouais,
il fallait qu'elle revienne une deuxième fois pour me fermer le coffre.
D'accord.
C'est-à-dire que sinon, je pouvais recevoir aussi vite.
Et replonger, quoi, c'est ça.
Eh bien, j'ai replongé.
Ah.
J'ai replongé 3 jours après.
D'accord.
Alors moi, pour moi, j'étais repartie, je pars à Paris, je revois mes amis, je vais dans le 17e, je vais dans l'appartement de mon ami.
Mmh.
Et là, j'ai eu j'ai été possédée par le démon. Hein.
D'accord.
C'est-à-dire ?
Donc j'ai été soulevée d'un lit, voilà, enfin,
c'est-à-dire que vous avez,
une horreur.
Physiquement, vous avez été agressée, c'est ça, par une entité,
ouais. J'ai été agressée.
Que vous ne voyez pas ?
Je ne voyais pas, mais je sentais la force. J'ai re-eu un poids, pas aussi lourd que les 3 autres,
mm-hmm,
mais j'ai re-eu un poids. En fait, j'ai senti une force me prendre par les poignets. J'étais allongée sur mon lit. Il m'a soulevée du lit. Je hurlais à la mort. Et j'avais la dame du rez-de-chaussée qui faisait le ménage, la concierge.
Ouais.
Elle m'entendait hurler du 6e étage. Moi, j'étais au 6e étage. Hein. Et en fin de compte, quand je hurlais, j'ai eu ma voix qui s'est déformée, ma mâchoire qui a dévié, en fait, hein, elle a été tordue. Mmh. Et c'était plus ma voix, c'était la voix c'était la voix d'un...
De quelqu'un d'autre. Comment on appelle
ça, d'un homme. Oui, voilà, c'est ça.
Mmh.
Cette entité était très différente des 3 précédentes. C'était pas la même.
Elle était pire, celle-là. Ouais. Elle était pire.
Alors, donc, ça, c'était juste 3 jours après avoir été exorcisé. C'est-à-dire que finalement, une entité reprend possession de votre corps. Et là, vous faites quoi à ce moment-là? Vous êtes dans cette maison?
Et bien là, je ne pouvais plus respirer. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'ai appelé ma sœur qui était dans le 17e également à Wagram.
Ouais.
Et elle est venue d'urgence avec des amis.
Ouais.
Elle a appelé un médecin parce que la pauvre, elle ne savait pas comment faire.
Ouais.
Ce médecin, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait une piqûre, j'ai dormi.
D'accord.
J'ai dormi, je vous assure. Mais quand je me suis réveillée le lendemain, ma sœur, elle m'a récupérée. Elle m'a emmenée d'urgence voir cette dame-là. Et cette dame-là, c'est là qu'elle m'a refait toutes ses prières avec le monsieur.
D'accord.
Exactement, vraiment des prières catholiques. Hein, Et ça a été fini. Là, ils m'ont fermée. Ça a duré 6 heures.
D'accord. Et pendant ces 6 heures, physiquement, vous étiez éreintée, fatiguée par...
Fatiguée, j'avais plus de force.
D'accord. Parce que c'est vrai que quand on voit un exorcisme, souvent il y a des positions de bras, de corps qui peuvent fatiguer. Est-ce que vous aviez vu ça? Vous aviez eu des mouvements physiques erratiques, un peu compliqués?
Oui, exactement. En fait, c'est pas comme dans les films, comme on voit le corps qui se tourne, ça n'a rien à voir. Hein.
Mm.
Par contre, ma mâchoire, elle s'est vraiment déformée.
D'accord.
Quand je hurlais, parce que j'ai dû quand même combattre contre lui, parce que j'étais soulevée de mon lit, hein. C'est quand même
Dites-moi, j'ai une question en fait, qui me taraude depuis longtemps quand je regarde ces films, quand je regarde des documentaires sur l'exorcisme. Est-ce que vous, en tant qu'humaine, vous étiez consciente qu'il y avait quelqu'un qui vous squattait, que c'était cohabité? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le vous et puis il y a une entité qui est à l'intérieur qui vous fait faire des choses ou dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous sentiez ça, cette dualité entre vous et ce démon?
Ouais, oui, exactement. Mais en fait, vous savez, il faut apprendre à être fort quand c'est comme ça, parce que si on se laisse aller, on risque de mourir quand même, parce que c'est très très grave.
Mmh.
Et moi, en fait, il voulait avoir contrôle de mon corps, mais je ne lui laissais pas le contrôle, parce que cette dame-là m'a dit, il ne faut pas.
Vous battiez, en fait, c'est ça.
Fort. Voilà, elle m'a dit, il faut que tu sois plus fort que lui.
Et il y avait une conversation, ou je sais pas, on va pas appeler ça un dialogue.
Lui, hein, je dis tu m'auras pas, mais on aurait pris une cinglée. Hein. Tu m'auras pas, moi je suis plus forte, je suis plus forte que toi. Je hurlais, mais je dis moi je suis catholique, je crois en Dieu, c'est Dieu, c'est.
Et lui, ce démon, cette entité, vous l'entendiez vous répondre?
Non, il me répondait pas. Il a hurlé quand je lui parlais de Dieu, en fait. C'est là que il m'a lâché. En fait, il a lâché mes poignets. Je suis retombée sur le lit et là, franchement, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'avais fait une grosse tachycardie.
Il y a eu des moments où vous n'étiez plus consciente?
Non, pas du tout. Je suis toujours restée lucide.
D'accord.
On va
bientôt clôturer ce témoignage, Mélanie, parce que vous n'êtes pas la seule à vouloir passer. Juste pour finir, ça s'est arrêté après avoir revu finalement cette dame avec la personne avec laquelle elle travaillait, quoi, c'est ça?
Alors oui, exactement, sauf que depuis ça, j'entends, je peux tout ressentir maintenant.
Bah écoutez, ce sera peut-être l'objet de notre témoignage, vous nous raconterez ce que vous voyez et ce que vous ressentez.
J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter.
Bah écoutez, j'imagine que Pierre-Alexis vous rappellera, j'en suis persuadé. Merci Mélanie d'avoir été avec nous et bon courage à vous.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Joli témoignage que celui-ci. Effrayant quand même. Moi, la possession me fait toujours un peu peur, mais effectivement...
Après, ce cas m'intrigue parce qu'il n'est pas... Comment dirais-je? Il ne correspond pas au canon, tu vois, la possession telle qu'on la connaît.
Ah bon?
Non.
Ah, pourtant, moi,
pour plusieurs...
J'ai l'impression de voir un film. Là.
Non, parce que normalement, tu n'es possédé que par des démons.
Ouais.
Tu ne peux pas être possédé par une âme ou quelqu'un d'autre, quoi.
Ah. Ça m'intrigue, les trois âmes qui ont basculé, les démons, peut-être.
Ah, peut-être. Alors, peut-être que c'est des démons qui ne se déclarent pas. Je note que dans aucun cas, l'Église n'a été mêlée à ça.
Ouais. Mmh. Et il y a des gens qui sont entièrement d'accord avec Jocelyn dans le chat, hein, surtout Denis, qui se dit, si elle était consciente de tout, c'est bien la preuve que ce n'était pas une possession.
Je ne suis pas sûr, parce que moi, j'ai regardé le film, justement, de William Friedkin, qui a fait un documentaire sur les cas de possession. L'architecte qui est montré, qui est suivi dans cet exorcisme, elle est complètement consciente de sa possession.
Et à vérifier, certains avancent aussi qu'il faut l'accord du diocèse.
Ah oui, bien sûr, toujours.
Et là, le diocèse n'a pas été mentionné une seule fois.
Ah non, mais à aucun moment l'Église n'est mêlée à ça. Il y a une dame qu'on ne connaît pas là qui fait des exorcismes.
Mmh. Donc dans tous les cas...
Après, il y a un problème, ça c'est sûr.
Ouais, il y a un problème avec... Et puis tant mieux
pour Mélanie, un vrai problème.
Voilà, Mélanie s'en soit sortie, hein, donc voilà,
c'est
une bonne chose. Mais effectivement, au Portugal aussi, il y a des gens très très pieux qui
peuvent... Après, le terme de possession, pour moi, il est réservé à des cas super rares et qui correspondent à un certain nombre de critères qui ont été évalués. Après, il y a d'autres cas qui peuvent être effectivement des troubles... toutes sortes de troubles. Après, moi, je ne suis pas spécialiste non plus. Mais bon, enfin, il y a des choses qui sont... Voilà, c'est juste ma remarque, ce serait qu'on n'est pas dans le cas classique de la possession telle qu'elle est définie.
C'est vrai, parce que moi, j'avais la sensation qu'il y avait tous les critères. Hein.
Donc, il n'y en a aucun même.
Bon, écoute, bon, mais d'accord. Bah, écoutez, vous voyez comme quoi. Intéressant, Tom, les réseaux sociaux ce soir. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui dit, Elena, qui dit, je veux être invité. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas. rédaction@btlv.fr ou 01 86 22 21 20. Si on n'est pas là, vous laissez un message ou vous nous envoyez un mail.
Tu disais, Bob, que c'était un joli témoignage. Les gens qui nous regardent, c'est plutôt un témoignage glaçant. Hein. Ils ont peur.
C'est quand même beau de voir quelqu'un qui ose en parler après des années.
Ça, c'est sûr.
Et on est là pour ça. Et surtout, beau de voir qu'elle a gagné son combat contre ce mal, ce qu'on peut imaginer.
Vince974 nous raconte, j'ai été possédé, je ne me souviens de rien. Mm-hmm. Voilà. Mes amis m'ont juste raconté après coup.
D'accord.
Donc là, effectivement, ça vaut peut-être le coup d'avoir un témoignage être un peu différent. Si jamais Vince974 voulait témoigner, voilà, vous êtes le bienvenu à l'antenne.
Moi, j'ai reçu quelqu'un ici. Rappelez-vous, on a fait une grosse émission avec lui qui disait avoir été possédé. Il est resté longtemps. Ça a duré plus d'un an et demi. Hein. Il était vu, revu. Ses enfants étaient spectateurs de tout cela. C'était très compliqué. Il était conscient de sa possession. Il savait qu'il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas. Quoi. Donc je suis pas sûr qu'il y ait des critères absolus sur la possession. Messieurs, je vous dis ça.
Parle des critères tels que définis par l'Église catholique.
Oui, voilà. Bien évidemment, mais ils n'ont pas la science non plus infuse.
Mais c'est quand même les grands spécialistes.
Encore une fois, ils sont plutôt spécialistes de Dieu plus que du diable, parce qu'il y a plein de prêtres qui ne croient pas au diable déjà.
Oui,
voilà.
Mais surtout que Mélanie faisait partie d'une famille catholique.
En plus, alors après, il y a tout cela aussi.
Je pense ça joue aussi.
Ça joue également. Autre chose.
Eh bien, autre chose...
On en parlera plus tard.
Oui, d'accord. mais j'avais d'autres témoignages. Enfin, voilà, oui, mais les gens ont globalement peur. Mais si tu veux, on passera aux réseaux sociaux plus tard.
On verra Farid dans un instant. OVNI dans le Gard en 1992. Avant cela, j'aimerais vous rappeler aussi qu'on a reçu quelqu'un d'incroyable. Jean-Patrick Pourtal, spécialiste de Rennes-le-Château. Regardez Rennes-le-Château, le vrai Da Vinci Code.
Le curé Saunière arrive le 1er juin 1885 à Rennes-le-Château. Le cœur de l'église, c'est là où il y a l'autel, c'est l'endroit sacré d'une église chrétienne catholique. Et on va avoir Joseph qui porte enfant Jésus, et juste en face de lui, on a Marie qui porte enfant Jésus. Ce qui fait qu'à l'autel de Rennes-le-Château, on a deux enfants Jésus qui sont représentés. Donc ils vont démonter avec des ouvriers du village, ils démontent le maître-autel. Et là, on a plusieurs choses qui vont apparaître. On voit qu'il y a tout un mouvement qui part des années 60, qui va remonter jusqu'aux années 2000, qui va se terminer par le Da Vinci Code. Il y avait un réel tombeau physique, ouais, qui était là, qui était exactement la reproduction du tombeau d'Arcadie. On assiste à Rennes-le-Château à quoi ? À une entrée au tombeau ou à une sortie du tombeau ? Ouais. Qu'il trouve dans cette cavité des rouleaux, et dans ces rouleaux, il y aurait des parchemins qui leur emmenaient vers un secret. Moi, je pense qu'il est tombé sur une série de documents qui lui a exposé probablement une autre vie du Christ que celle qui était connue à son époque. Si on prend les initiales de chacune de ces statues, on a un acronyme qui se dessine. Un G, un R, un A, un A, un L. Est-ce que le M de Marie-Madeleine nous dit c'est le Graal ? En tout cas, si c'est un hasard, il fait vraiment bien les choses.
Rennes-le-Château, le vrai Da Vinci Code avec Jean-Patrick Portal. Magnifique, magnifique émission. Et alors, bonne nouvelle, à partir du 1er octobre, vous aurez une VOD, un documentaire sur Rennes-le-Château et le rapport qu'il y a avec le Da Vinci Code signé David Gallet. Ce sera en VOD. Si vous souhaitez, bien sûr, le louer, et ce sera en exclusivité. Merci d'être avec nous. Vous ne changez rien au 01 86 22 21 20. On a Farid qui est avec nous. Bonsoir Farid.
Bonsoir, bonsoir Bob et bonsoir à tout le monde.
Ravi de vous accueillir Farid. Vous êtes toujours dans le Gard ?
Oui, toujours dans le Gard à Nîmes.
D'accord, magnifique Nîmes. Dites-moi, oui, qu'est-ce qui vous est arrivé en 1992 ?
Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé en 1992 ? J'étais avec des amis, on habite légèrement un peu en dehors de Nîmes, mais pas trop loin. Ouais. Donc on jouait au foot, donc on est partis tous, on était à peu près 11, on est partis tous dans un petit terrain de foot. Ouais. On jouait souvent là-bas, donc, et un soir, et en 1992, un soir, on jouait au foot, et d'un coup, on a vu une étoile filante arriver à 40 degrés, et cette étoile filante, elle s'est arrêtée.
Ah, alors, ça, voilà, ça, c'est pas commun. C'est-à-dire que l'étoile filante qui stoppe, donc elle est plus très filante, c'est-à-dire qu'elle s'est complètement arrêtée, quoi, c'est ça.
Ouais, elle s'est carrément arrêtée, donc après, nous, on s'est arrêté de jouer, ouais, quand on a vu cette étoile filante qui s'est arrêtée, et elle est restée un quart d'heure, 20 minutes, et elle est restée en stationnaire au départ, pendant un petit moment, pendant 3-4 minutes. Puis après, elle a fait des petits mouvements, un peu à gauche, à droite, en haut. D'accord. Voilà, je sais pas. Voilà.
Donc là, il y a beaucoup de témoins, puisque vous êtes en train de jouer au foot.
Oui. On est 11 à jouer. D'accord. On a vu tout cet objet, tout cette lumière. Ouais. Du moins, parce que c'est une lumière assez. Assez bizarre.
Et alors, à quelle hauteur cette étoile filante s'est arrêtée ?
Alors, elle s'est arrêtée, elle est rentrée déjà, dès qu'elle est rentrée dans notre atmosphère terrestre, du moins, c'était assez éclairé. Vous voyez, on voyait la courbure de notre planète, vous voyez un peu le cercle. Mmh. C'est ça. Au départ, on a eu vraiment la courbure. Et elle est arrivée, et elle s'est arrêtée, donc elle était beaucoup éclairée. Et elle devait être, à mon avis, à 3 km, 3 000 mètres d'hauteur à peu près. Mmh. Voilà, elle était légèrement un peu en bas des... À peu près, il n'y avait pas de nuages, parce que c'était l'été, le mois d'août. Et elle était légèrement à peu près hauteur de nuages.
D'accord. Voilà. Et quel mouvement, vous dites qu'elle a fait des mouvements, elle était à droite, à gauche, elle est allée loin, elle est revenue ?
Oui. Non, pas... On a du mal à voir, mais non, elle a fait de gauche à droite, et de bas en haut. D'abord à gauche, à droite, en haut, re à gauche, en bas, à droite.
Quel sentiment vous aviez à ce moment-là ? Y a un sentiment de quoi ? De fascination ? Et puis de vous dire que c'est conduit, que c'est quelque chose de pas normal ?
À mon avis, ouais. C'est un truc, on l'a vu dès que c'était au départ, on a vu une étoile filante, donc on en voit souvent. Et dès qu'on a vu qu'elle s'est arrêtée avec un angle de 40 degrés, et on a vu, on a jamais vu ça de notre vie. Même la couleur, le jaunâtre, de l'orange, un peu de violet. Et ouais, c'est des couleurs. On ne sait pas. On n'a jamais eu ça. Mmh.
Voilà. Et l'objet a disparu ensuite ou...
Oui, non, il est resté entre 15 et 20 minutes.
Oui, c'est ce qui est très long.
Ouais, c'est assez long. Et puis après, on a arrêté de jouer, donc on a regardé tous en même temps. D'accord. Et l'objet, Vers la fin, il est resté un tout petit peu assez droit. Mmh. Puis après, il est parti directement en horizontal.
Et quand vous dites qu'il faisait des mouvements, est-ce que c'était des mouvements rapides ou c'était des mouvements...
Ah oui, oui. Non, c'est rapide. Même dès qu'on l'a vu qu'il est rentré comme une étoile filante, on l'a vu, c'était un objet qui était rapide, même à l'arrêt. Même, vous voyez ce que je veux dire d'un point A à un point B, c'est on a vu ça l'autre vie.
Un démarrage fulgurant à chaque fois, en fait, c'est ça.
Oui. Mais même au freinage, dès qu'on l'a vu, c'était une étoile filante. On avait le temps de la suivre, en plus, je vous ai dit, entre 35 et 40 degrés, donc on a le temps de voir le... Mais non, elle s'est arrêtée. Déjà, rien que là, c'était, pour nous, c'était magnifique, parce que je leur ai posé la question, je leur ai dit, les gars, ça n'existe pas, ça.
Et quel a été le sentiment, justement, des gens avec qui vous étiez à ce moment-là ?
Eh bien, ils n'ont jamais vu ça aussi. C'est pareil, on a tous constaté que c'était un objet exotique, un peu. Hein,
voilà. Il y a eu cette pensée à l'OVNI, c'est ça ?
Oui. Moi, de suite, j'ai un peu compris. Ben, je sais c'était quoi les étoiles filantes, les astéroïdes, vous voyez, les météores, les différents corps qui rentrent de l'atmosphère terrestre. Là, ça n'avait rien à voir. Là.
Vous en avez parlé le lendemain ou vous en avez entendu parler ? Peut-être d'autres auraient-ils vu la même chose ?
Non. En gros, on s'est tous séparés. J'aurais dit, les gars, ce qu'on a vu, parce que voilà, et on s'est tous dit. Ben, on l'a toujours, hein, même 30 ans après, même, c'est en 92, on l'a toujours dans notre tête. Hein. Et après, moi, dès que je suis rentré chez moi, parce que j'habite pas très loin du petit stade de football, je suis rentré chez moi, j'ai vu mon père qui bricolait dans le garage, donc je suis parti le voir, j'ai dit, papa, j'ai vu un objet venant d'en haut, un cake, et voilà, tout ça. Il m'a dit, mon père m'a dit de laisser ça un peu loin, vous voyez ce que je veux dire. Il a pas voulu en discuter.
Ouais. Ouais. Il avait peur que ça parte en sucette, en fait, c'est ça.
Non, même pas. Il savait que ce que j'ai vu, c'était vrai quand même. Parce que je vais pas voir mon père et lui dire ça. En gros, c'est comme si j'ai vu, c'est comme si j'ai vu Michael Jackson en 1992, juste en bas de chez moi, je vais voir mon père, je lui dis. Ouais. C'est à peu près la même chose.
D'accord. Et depuis ça, parce que vous aviez quel âge quand c'est arrivé, il y a 30 ans?
J'avais 16 ans. 16 ans. Ouais, 16, 17, ouais. 2 ans après, j'ai fait l'armée, donc j'ai fait mon service militaire.
D'accord.
Et j'ai vu la technologie que l'armée française avait en 1992. Et j'ai vu que, donc j'étais à hier, à côté de Toulon, dans une base... de systèmes d'armes assez performants, et il n'y avait pas ça. Ça existait pas. On avait le Carol, on avait les Charles Leclerc, on avait les simulateurs de tir, et pas ça.
Mais dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est ce qui trouble souvent le témoin, l'observateur, c'est les mouvements. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme les pilotes, on l'a vu avec les pilotes de l'US Army qui ont filmé avec leur F-18 des objets volants. C'est vraiment les mouvements qui sont particuliers.
Oui, c'est vrai. En gros, c'est les mouvements et c'est le... Et aussi, c'est pas question de mouvement, parce que le mouvement, c'est aussi la vitesse, quand même, parce qu'on peut, on voit le mouvement, mais on a du mal à voir la vitesse que l'objet a d'un point A, un point B, au C. Et après, il est resté stationnaire, puis après, il est parti direction Avignon, direction Aramon, vous voyez, parce qu'on a une petite centrale nucléaire, qui a fermé, je crois, ça a été décontaminé. Et je sais que l'objet est parti dans ce sens-là,
par là.
Direction la petite usine nucléaire.
Alors, ce qui est toujours un peu déroutant avec ces histoires, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs, à juste titre, tout le monde se plaint. Alors là, vous, en 92, on n'avait pas les appareils de téléphone comme on a aujourd'hui, on ne peut pas filmer, etc. On s'est toujours plaint, on se plaint toujours, je le vois sur la toile, des vidéos qui sont de piètre qualité. Visiblement, Tom DeLonge, qui a créé To The Star Academy, j'en ai fait un article d'ailleurs sur btlv.fr, a déclaré sur Mystery Planet, je crois, ou quelque chose comme ça, un site, je crois que c'est un site espagnol d'ailleurs, il a déclaré qu'il y aurait des vidéos qui auraient été filmées par des engins F-18 américains à 3 mètres des ailes, et que les pilotes étaient voir que finalement, ce n'était pas eux qui observaient les ovnis, mais c'était les ovnis qui les observaient. Donc, donc on espère qu'un jour, ces vidéos sortiront et qu'on pourra les voir. J'aimerais bien les voir.
Oui, parce, que, voilà.
Moi, parce que 3 mètres, c'est
ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux. C'est génial de dire ça.
Mais après,
on a envie de les voir.
Bon, dans tous les cas, merci Farid d'avoir été avec nous pour nous raconter cette histoire ce soir des ovnis dans le Gard en 1992.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Jocelyn.
Non, juste commenter ce témoignage. C'est une vraie observation d'OVNI parce que le début peut être expliqué. Ça pourrait être très bien une rentrée atmosphérique. On sait, voilà, on peut suivre la trajectoire. C'est pas une étoile filante, ça dure très peu de temps. Mais là, ça peut être une rentrée atmosphérique. On a vu ça dans certaines vidéos, ça éclaire tout le ciel. Mais après, il y a les mouvements erratiques, la vitesse. Et puis l'objet devient stationnaire et s'en va en mode horizontal. Bon, là, ça devient difficile à expliquer. Là.
Alors, vous le savez, BTLV, c'est des documentaires, c'est des émissions de télé, la preuve. Ce sont des émissions de radio filmées aussi. Ce sont des événements, ce sont des livres maintenant et bientôt un magazine. On aura l'occasion de vous en reparler, mais c'est aussi des masterclass. Et il y en a une qui est aux commandes de ces masterclass, c'est Sandrine Chopin, elle est avec nous. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Bob, bonsoir toute l'équipe.
Ravi de t'accueillir Sandrine pour évoquer une masterclass qui va avoir lieu jeudi, c'est ça?
Absolument, jeudi 23 septembre à 20h en direct et gratuitement. C'est Gaëlle Ucheno avec qui j'ai déjà fait une masterclass qui a eu un véritable succès. Et beaucoup d'auditeurs nous ont demandé en fait à ce qu'ils puissent revenir, et donc c'est le cas. Alors la masterclass est sur la médiumnité, développer une faculté médiumnique pour mieux entendre les messages de vos guides. C'est une masterclass qui promet d'être assez fantastique, comme la dernière fois en fait, où on va pouvoir apprendre à ouvrir son troisième œil, à le nettoyer, à finalement déployer ses capacités extrasensorielles pour bien sûr mieux gérer sa vie. Donc c'est le 23 septembre, c'est en direct, c'est à 20h. Il faut s'inscrire sur btlv.fr, le lien d'inscription est en marche. Les places sont limitées, donc ne traînez pas les auditeurs, on vous attend nombreux.
Il y a bien sûr Tom aussi qui va mettre le lien pour que vous puissiez
c'est
vous...
déjà fait.
Ah ben bah, c'est déjà fait. Tom il dégaine vite, hein, donc voilà. Oui. Donc il a mis le lien afin que vous puissiez effectivement participer totalement gratuitement à cette masterclass de Gaëlle Ucheno qu'on a déjà reçue, que j'ai reçue d'ailleurs ici en émission. Merci Sandrine d'avoir été là. On rappelle que ces masterclass sont totalement gratuites. Voilà, vous en profitez pleinement si vous inscrivez, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Mille merci.
À jeudi.
On va revenir sur l'actualité du web. Une vidéo a fait le tour du web. C'était le 6 septembre dernier. On va la regarder tout de suite parce qu'elle va durer un peu longtemps. C'est une Chinoise qui, en observant ou en regardant la webcam, une des webcams du live stream du Loch Ness, depuis son domicile de la ville de Jiaozhou, a été scotchée. Elle a vu cette masse sombre qui est dans le Loch de chez elle et elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle voit quelque chose, elle pense au départ bien sûr que ça peut être un rondin de bois et puis hop, ça accélère un petit peu, ça va un petit peu vite et puis après...
Il faut peut-être dire qu'au fond c'est pas le ciel qu'on
voit. Oui bien sûr, c'est le Loch Ness.
Hein, c'est le lac.
Voilà, c'est l'eau le et on voit d'ailleurs ce truc et alors ce qui est assez marrant c'est que c'est pas la seule observation. On regardait, elle a été entourée de blanc cette fois-ci, c'est pas l'observation de 2021 parce que et en plus elle a été officialisée par Gary Campbell qui supervise le site officiel hein, des apparitions du monstre du Loch Ness. Il était content parce que déjà du monde entier on peut observer le monstre. Alors maintenant ça peut être une silure, ça peut être beaucoup de choses hein, quand même.
Hein. Il y a des gros esturgeons
dans cette.
S'il y a même pas des phoques
dans le lac. Mais effectivement en tout cas, ce qui était intéressant c'est qu'effectivement aux quatre coins du monde comme le dit Gary Campbell, on peut avoir un œil sur le Loch Ness et cette jeune femme est très fière d'être officialisée comme étant un des témoins du monstre du Loch Ness. Voilà l'actu du web sur BTLV.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Dans une poignée de secondes, on va revenir sur la vague du 5 novembre 1990 avec Bruno qui sera avec nous. Et avant cela, j'aimerais vous rappeler que la partie 2 du château de Fougeray, un château hanté vraiment pas comme les autres, eh bien, est disponible en VOD ou offert à tous ceux qui décident de s'abonner à BTL.
Je me suis baladée dans les couloirs de Foucheret, dans ce château qui est incroyable. C'est très différent d'un niveau à l'autre. Au rez-de-chaussée, je me suis sentie comme dans une maison de famille. Et lorsque j'ai dû me rendre au premier étage, l'ambiance était tout autre.
Je me sens observée, ça oui, je me sens observée depuis que je suis rentrée. Et dans chaque pièce, les sensations sont complètement différentes. On a l'impression de passer d'un pays à un autre, c'est complètement fou, quoi.
D'un seul coup, il y a un frisson qui te prend, il y a une émotion qui t'étreint. Mon cœur qui bat plus fort, les larmes qui montent parce que je sens que je vis quelque chose de rare et d'exceptionnel.
Faugeret, un château hanté, vraiment pas comme les autres. La partie 2 est disponible. Alors vous verrez, dans cette partie 2, on a parlé des trucages aussi qui ont été remarqués dans l'histoire du paranormal. On a évoqué tout. On est allé dans les pièces du château. On a même fait venir un mentaliste, des magiciens, pour montrer qu'il était capable de faire des choses. Tout cela à l'initiative aussi de Véronique. Et c'est tout à son honneur parce qu'effectivement, elle est tellement attaquée qu'elle a voulu montrer qu'il y avait, bien sûr, malgré tout cela et ses explications, toujours des mystères à Faugeret. Et nous y sommes allés avec Jocelyn. On peut vous dire qu'il y a toujours des ressentis, il y a une âme. Et encore une fois, si vous avez vu la deuxième partie, vous serez d'accord avec moi que ce que je vis dans ma chambre lors de la deuxième nuit reste encore une fois inexpliqué et étrange. 01 86 22 21 20. On va avoir dans quelques secondes Bruno, mais on fait un tour sur les réseaux, Tom.
Il y a une question que je me pose par rapport au témoignage de Farid. Vu que c'était une sorte d'étoile filante, est-ce qu'on peut quand même faire un vœu, même si elle s'arrête en plein milieu dans le ciel ?
Tu peux faire ce que tu veux.
Je sais pas.
T'as carrément le temps.
Tu peux là, tiens.
Pour faire plein.
Et plein de vœux. Hein. Ouais. Drôle de témoignage de Croto77. Une nuit, je me suis réveillé hors de mon corps physique, couché sur une table métallique. Il y avait un gris à ma droite qui me regardait d'un air condescendant. J'ai appelé à l'aide certains de mes guides. En un instant, je me suis retourné dans mon corps physique. Ça, c'est un drôle de témoignage, en effet.
Bah, ce serait bien qu'il le raconte à l'antenne, parce qu'on aurait plein de détails. Donc n'hésitez pas, rédaction@btlv.fr ou 01 86 22 21 20. Si on ne décroche pas, vous laissez un message avec votre téléphone.
Et on va en parler des abductions d'ailleurs, Bob.
Mercredi.
BTLV. Oui, il faut le rappeler.
Mercredi.
Louis Lambrouille, qui est d'ailleurs un nouveau de BTLV.
Magnifique, Louis Lambrouille, j'adore son surnom.
C'est le fils de Didier Lambrouille.
Ouais, c'est ça. C'était Decaune, ça, c'est ça.
Qui est nouveau donc sur BTLV, bienvenue. Un soir, j'ai tenté de me concentrer en parlant aux aliens, en leur disant de se montrer. À force de conviction, j'ai vu comme des dizaines d'étoiles se déplacer de façon aléatoire. Eh bien, Louis, petite confidence, j'ai fait exactement la même chose. Parce que, en partant du principe qu'il y a une espèce plus intelligente, forcément, qui maîtriserait la télépathie, pourquoi pas ? Ouais, donc voilà.
Et ça a bougé ?
Non.
Louis Lambrouille a eu plus de chance. On va rester dans les étoiles avec Bruno, parce qu'il est déjà 20h20. Bruno est avec nous. Bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir Bob.
Bon, je suis ravi de vous accueillir. Vous étiez là la semaine dernière et vous vouliez nous raconter cette observation du 5 novembre 1990 qui a été relatée dans le monde entier. Ça a fait beaucoup parler. On a eu des grands, on a eu des pilotes, on a eu même Ignoré, un astronaute qui dit avoir vu quelque chose ce soir-là. On a Jean-Gabriel Grélet qu'on a reçu ici, ancien pilote de l'US Navy, de l'armée française, qui aussi lui a été observateur de quelque chose. Qu'est-ce que vous y avez vu, vous, lors de cette nuit du 5 novembre 1990 ?
Eh bien, ça s'est passé il y a 31 ans. C'est un moment inoubliable. Alors, ce soir-là, je regardais la télévision et mon épouse me dit « Écoute, je vais chercher une amie à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. » Alors, je lui dis « Ben, ok, je vais venir avec toi parce que la nuit, au mois de novembre, voilà, par sécurité, donc je l'accompagne.
Ouais. »
Et donc, on quitte la région de Morestel, on se dirige vers Crémieux, donc la cité médiévale de Crémieux. On sort de Crémieux et donc, en arrivant vers le village de Jamézieux, je distingue des lumières rouges en formation qui évolue. Alors, déjà, je me demande ce que c'est. J'essaye de comprendre. Je me dis, bon, des hélicoptères, c'est quand même bizarre. Des avions, non, c'est pas possible. Puis, comme je connais la configuration du terrain, je sais qu'il y a des lignes à très haute tension. Et là, je dis, bah, c'est pas possible. C'est pas des avions, c'est pas des hélicoptères. Et puis, alors, c'est des... Si vous voulez, il y a deux rangées de lumière qui épousent un peu le terrain. Et c'est, je sais qu'à cet endroit-là, il y a une colline. Et je dis textuellement à mon épouse qui est à mes côtés, qui est enseignante titulaire, très cartésienne, je lui dis ça, ce sont des engins extraterrestres qui sont en mission de surveillance ou qui font un travail particulier. Mmh. Alors, bon, je fais partie de l'aéroclub de Morassel, je sais à peu près ce qu'ils volent et tout. Et là, il n'y a aucun feu. C'est très curieux. Et puis elle me dit, bah, arrête-toi au bord de la route. Alors je m'arrête au bord de la route. Et puis alors là, bah, là, là, on va se prendre une claque monumentale. Il fait nuit. Mm-hmm. Et je vois arriver une masse sombre, mais un peu éclairée, et qui forme un triangle isocèle à peu près. Mm-hmm. Et au milieu, il y a une lumière inclinée à 45 degrés. Blanche, jaunâtre, blanchâtre, mm-hmm. Qui ne touche pas le sol. Une sorte de lumière solide, pardon, mm-hmm. comme ça serait un champ magnétique d'un synchrotron ou quelque chose comme ça. Et donc, ça se déplace à peu près à 40 km heure. Et la taille, moi, je l'évalue entre 150 et 200 mètres, mm-hmm. parce que j'ai quand même un référentiel. J'ai des peupliers qui sont à côté.
D'accord.
Et alors, aucun bruit, et là, ma femme, elle est clouée sur place, elle sait que je m'intéresse aux ovnis, mais elle n'a jamais vu une chose pareille, et moi non plus. C'est, imaginez, donc à peu près à 60-80 mètres, un engin 150 à 200 mètres de long, qui passe silencieusement, c'est complètement surréaliste, avec une lumière centrale qui sort apparemment du milieu, mais qui touche pas le sol. Mmh. Et à côté, j'ai compté, d'ailleurs, mes enfants avaient fait un dessin, à peu près 7 lumières rouges très prononcées qui semblent émaner d'engins ovoïdes. Il y a une légère luminescence, et donc ça passe, mais en ondulant, dans un silence total. Et alors là, c'est là où je pense aux déclarations du contacté Jean Miguère qui parlait du survol de la Belgique par des engins triangulaires.
Alors,
et
là, justement, à propos de Jean Miguère, on en parlera mercredi, puisqu'on aura bien sûr l'occasion de relater son histoire lors de l'émission Abduction, sommes-nous les cobayes des extraterrestres avec Isabelle de Cochecot, ce sera mercredi. Donc, voilà.
C'était un ami intime et je l'ai aidé dans sa mission pendant 2 ans avant qu'il soit assassiné. Voilà.
D'accord. Ok.
Et donc, à ce moment-là, je me dis, bah oui, le contacté Jean Miguère ne m'a pas raconté des bêtises, puisque moi, j'étais enquêteur de lumière dans la nuit et que j'avais étudié son corps. Et là, c'est absolument fabuleux, parce que la société, tout ce que vous avez appris, vous rendez compte qu'il y a une technologie, une intelligence supérieure qui vient se promener tranquillement. C'est passé devant l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Les radars n'ont rien détecté, mais ça a été vu en visuel. Et je pense que de la part de ces intelligences, c'est voulu. Alors, voilà. Et donc, alors quand l'engin... disons que c'est carrément ce porte-avions escorté suit la route. Moi, je prends ma voiture et on suit... On les suit le long de la route, ils sont dans le champ. Je me dis, les gens vont s'arrêter. Il y a quelques voitures qui passent parce que c'est quand même bien visible. Mmh. Et à un moment donné, paf, ça disparaît sur place. Alors, est-ce qu'ils sont partis très très vite à la vitesse de la lumière ou ils se sont téléportés? Mais en tout cas. Voilà, il n'y a plus rien eu.
Attendez, c'est important parce que on a fait un article sur btld.fr d'un détenu en Angleterre qui a vu quelque chose d'incroyable. Alors, ils sont tous en train de faire du sport dans la cour. Et lui regarde le ciel et pense voir dans un premier temps un aigle qui fonce sur sa proie. Et il voit un engin finalement assez volumineux qui est au-dessus de lui et qui va rester en stationnaire autour de la prison. Donc tous les détenus et même les gardiens regardent cela et tout d'un coup, il raconte que l'OVNI s'est effondré sur lui-même, a disparu dans une sorte de brume, de la pluie est tombée et d'accord. Le lendemain, ils se sont réveillés, ils avaient plein de pustules sur le visage, etc. Donc bien sûr, les complotistes y ont vu une arme secrète testée sur les prisonniers et les ufologues y ont vu un OVNI. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours cette disparition. C'est-à-dire que ça disparaît, on ne sait pas si finalement ça part à une telle vitesse qu'on ne voit pas, ou si ça disparaît complètement, si ça passe dans un trou de lumière ou dans un trou de dimension.
Alors moi, je vais vous dire, moi, à partir de l'information que j'ai eue de cet homme qui avait été contacté, en 54-56, mon ami Jim Higuieux parlait de radiotransmission de la matière, et là, Jean Miguel nous expliquait que des sortes d'ordinateurs quantiques ultra-puissants grâce à des champs d'énergie, pouvaient modifier la matière et puis créer une sorte de, on va dire, comment dirais-je, une stargate, une porte des étoiles, une porte dimensionnelle. Moi, j'observais la formation et tout d'un coup, paf, ça a disparu sur place. Voilà. Alors, la petite anecdote que je veux raconter à vos auditeurs, Bob, et à vous-même, c'est que le lendemain, j'ai appelé le GEPAN, Monsieur Jean-Jacques Velasco, et il m'a dit « Non, vous êtes trompé, vous avez confondu avec la rentrée du satellite soviétique Horizon 21 ». Alors là, je suis resté baba, j'ai dit « Ok, je ne m'adresserai plus au GEPAN ». Voilà, parce que bon, j'ai fait partie de la Société Astronomique de Lyon, et puis j'étais membre de l'aéroclub de Morastel, donc je sais très bien ce qui volait, et tous les phénomènes astronomiques ou météorologiques.
Mais Bruno, vous êtes au courant que Jean-Jacques est revenu sur ses déclarations, il avait, en son temps bien évidemment, il avait évoqué cette rentrée atmosphérique, et l'un n'a pas empêché l'autre. D'ailleurs, je me souviens avoir entendu Jean-Pierre Ignoret, lui aussi, astronaute quand même, avoir déclaré que l'un n'empêchait pas. Il pouvait y avoir effectivement eu une rentrée atmosphérique, mais cela n'empêchait pas d'avoir un survol d'engins. Parce qu'il y a eu des centaines et des centaines de témoins ce jour-là, et pas des moindres. C'est-à-dire que astronautes, pilotes, etc., il y a beaucoup de gens qui ont vu des choses. Et puis, une rentrée atmosphérique, ce n'est pas un engin qui va doucement, ce n'est pas un triangle,
c'est
pas
fugace,
un truc.
Hein,
voilà,
ça
c'est fugace.
Hein.
Ça va vite. Ça, on voit que c'est quelque chose de naturel. Là, visiblement, alors peut-être que ces entités ou ces engins ont profité de la rentrée atmosphérique comme un leurre, pour dire voilà, de toute façon,
une
hypothèse. Ils ne verront pas finalement que nous étions là. Mais moi, je me souviens de Jean-Gabriel Grenet, c'était en 90, c'était il y a 30 ans, c'est ça Et lui, il était encore en pleine possession de ses moyens, il faisait du judo. Il allait à son dojo. Voilà, et il a regardé au-dessus du dojo quand même un truc qui était un vaisseau spatial, mais qui était monstrueux passé au-dessus du dojo, tout doucement. C'est-à-dire que le mec a piloté des engins de chasse. Il était pilote de chasse. Il sait ce qu'il vole quand même. Donc voilà. Donc c'était toujours assez étonnant. Alors moi, je veux bien effectivement qu'il y ait une rentrée atmosphérique. Je veux bien que on peut se faire avoir sur plein de choses. Mais là, quand il y a des professionnels de l'air qui vous disent j'ai vu. Et alors, même de l'espace, avec Ignoret, j'ai vu quelque chose qui dépassait l'entendement et qui n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de voir, ça laisse toujours interrogateur.
Oui, mais tout à fait. Moi, j'ai rencontré Jean-Gabriel, je suis allé sur le lieu de son observation, et donc la taille de l'engin, lui, était estimée à 450 mètres de long.
C'est énorme.
Donc, il n'y a pas photo.
C'est-à-dire que même Lionel Messi, il faudrait qu'il ait des grandes jambes pour courir ces trois terrains de football. Non, mais c'est incroyable. Donc, vous, personne n'a été capable de recevoir finalement votre témoignage. Il est tombé aux oubliettes comme la plupart de tous ceux qui ont appelé ce jour-là les chaînes de télévision ou le GEPAN, etc. En fait, c'est
et puis, quand j'ai écouté à la télévision, parce que nous, quand on est arrivé à l'aéroport, il y a notre ami amie qui arrivait d'Abidjan d'Afrique, elle nous dit, mais vous faites une sacrée tête. Alors on lui dit, mais si tu savais ce qu'on vient de voir, mais on savait pas que toute la France avait été survolée, une partie de l'Europe. Et quand j'ai revu dans la semaine contacter Jean Miguel, il m'a expliqué ce qui se passait. Mais je vais vous dire, Bob, si je n'avais pas eu ce côté autodidacte de faire de l'ufologie et d'avoir déjà observé des engins, si j'avais été un simple citoyen lambda, sans connaissance particulière, je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, point d'interrogation, un engin secret, mais là j'avais des informations déjà, et donc bon, quand quelqu'un vous dit, voilà, j'ai un beau tableau, j'ai un Renoir ou un Léonard de Vinci, vous voulez bien le croire, mais tant que vous n'avez pas vu le tableau, et là, ce soir-là, j'ai dit, stop, le contacter Jean Miguel, on n'a pas raconté des conneries.
Bon, écoutez, Bruno, merci parce que d'être revenu sur cette vague du 5 novembre 1990. Nous avions d'ailleurs posté pas mal. On avait refait une émission sur le 5 novembre 1990 pour fêter cet anniversaire avec des documents de l'époque. C'est à votre disposition sur btlv.fr. Merci infiniment. Bruno, je voulais juste, avant de mettre la petite virgule, citer un témoignage de Louis Lambrouille. Quand on écoute les témoignages sur le Skinwalker Ranch, on peut être un peu scotché. Effectivement, c'est brièvement ce qu'il dit. Et il y aura une émission la semaine prochaine avec Mathias Leboeuf et Mathieu Combaz sur justement ce cas assez étrange du Skinwalker Ranch qui a été acheté en son temps par Robert Bigelow qui travaille avec la NASA. Et il y a eu bien sûr des documentaires de fait dessus. Jérémy Corbel qu'on a reçu ici s'y est intéressé. Donc c'est un lieu assez particulier.
J'aimerais rajouter aussi, ça se trouve, le témoignage de Bruno n'est pas vraiment tombé aux oubliettes. Fleur l'Étoile nous fait une petite piqûre de rappel. Il s'est passé quelque chose, pas le 5 novembre 90, mais le 7. Et là, cette fois-ci, nous sommes au Canada.
Oui, bien sûr, Place Bonaventure.
La Place Bonaventure.
Mais on connaît.
Voilà. Voilà.
On en a fait des émissions, d'ailleurs.
Est-ce que je peux raconter brièvement l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas? Voilà. Donc, le 7 novembre au soir, effectivement, on aperçoit un objet de forme. Un disque. Voilà, avec trois lumières rouges. Et ce qui est étonnant avec le témoignage de Bruno, c'est qu'il mentionne une dimension de 450 mètres. Et là aussi, on mentionne un diamètre avoisinant les 450 mètres. C'est une drôle de coïncidence quand même.
Ce qui est d'autant plus troublant dans cette histoire de la Place Bonaventure, même si plein de gens ont démonté l'histoire, etc., c'est que c'est en pleine ville. C'est-à-dire que la Place Bonaventure, c'est la défense en fait, de Montréal. C'est-à-dire que c'est là où il y a une dizaine de tours, même pas, parce que Montréal est une ville assez basse. Et là, c'est le seul endroit où il y a des immeubles un peu hauts, c'est le quartier d'affaires. Et là, visiblement, effectivement, il y a quelque chose. Mais encore une fois, je vous renvoie aux émissions que nous avons pu faire sur la Place Bonaventure. Je crois que c'était avec Jenny Chariot, d'ailleurs, la représentante du MUFON France et Belgique, que nous avions évoqué cette histoire.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Pour conclure en cette libre antenne, on va revenir sur une actualité sur le web. L'incident s'est produit le 13 septembre dernier dans l'après-midi dans la ville de Galveston, c'est au Texas je crois. La police fut alertée par des témoins, on va regarder la truc, parce qu'un homme mystérieux était sur la plage avec un couteau, avec bien sûr déguisé en Michael Myers, vous savez le héros horrible de Halloween. Et les gens ont bien sûr ont eu très très peur. Et le mec a été arrêté par la police. C'est un avocat, mesdames et messieurs. Donc vous allez voir là, donc il est sur la plage et il connaît bien la loi puisqu'il est avocat. Il se laisse faire et il s'est beaucoup amusé parce qu'en fait il a dit que, vous voyez, la mer est démontée. C'est on annonçait une tempête. Pour détendre l'atmosphère, il s'est dit, je vais aller sur la plage et je vais jouer à Michael Myers. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas eu le même humour. Bon, ça a fait quand même beaucoup, beaucoup rire les habitants. Et il n'est même pas condamné. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il a été juste un peu secoué par ça, parce qu'ils sont aperçus que le couteau était factice.
Oui, il n'a pas commis de crime.
Il n'a pas commis de crime. Voilà, c'est ce que... Voilà.
Mauvaise blague,
etc. En tout cas, c'était assez marrant de voir ça dans l'actu du web. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Regardez ce qui vous attend mercredi. On sera en direct, bien sûr. Et en clair, abduction, sommes-nous les cobayes des extraterrestres, avec Isabelle de Cochecot, qui est psychologue et qui travaille avec le Séro France. qui est l'association qui est là et qui consigne tous ces témoignages de personnes qui disent avoir été emmenées ou en tout cas approchées par des extraterrestres. Il y a Rencontre extraterrestre, c'est un bouquin qui est préfacé par Jean-Pierre Petit. Elle viendra nous le présenter mercredi avec, bien sûr, toute l'équipe de la rédaction. Allez découvrir BTLV, mesdames et messieurs, sur btlv.fr. Il y a tout à votre disposition, des dizaines et des dizaines et des centaines et des centaines d'émissions à votre disposition sur tous les sujets. Et voilà pourquoi on est devenu en 9 ans le média numéro 1 sur le mystère expliqué. Et merci Jocelyn. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. On enregistrera aussi un nouveau dossier inexpliqué, donc sur la cité
de Nanmadol.
Alors, j'ai pas osé le dire, Nanmadol.
Nanmadol, ouais. Voilà. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire.
Merci Tom d'avoir été avec nous également. Merci à Pierre-Alexis d'avoir préparé cette émission, à aussi notre ami Mathis de l'avoir réalisé, l'a préparé. Sortez couverts, faites attention. Salut.
C'est la rentrée et cette saison encore, BTLV vous promet des interviews inédites. Des émissions rares. Des magazines exclusifs. Des documentaires exceptionnels. Pourquoi chercher ailleurs ? BTLV vous apporte toutes les réponses.
Analyser, décrypter, comprendre, telle est ma devise.
Là où les autres s'arrêtent, BTLV commence. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué.